Honey, honey, I got what you want. Give me all of your love, it's burning hot. It's what you do to me, babe, I can guarantee. Honey, honey, I got what you need. Yeah, under the night sky, I want your eyes all on me. Don't tell me lies now, I always get mine. Don't play with me.
C'est la fête! Hop! Qu'est-ce que ça boit? Tous à la buvette! Let's go! Ah, c'est ma tournée! Allez, c'est parti!
Honey, honey, I got what you need.
T'es chaud là. J'ai failli renverser mon thé, bordel. Ouais, quelle heure il est ? 9h25, j'ai l'impression que dans ma tête, il est 1h du matin, tu vois, le début de la soirée. Ah ! C'était moi, en fait, depuis le début. Et vous avez cru que c'était le nouveau DJ, un petit peu à la mode, tout ça, là ? Pas du tout. En fait, c'était moi. Ah. C'était une espèce de blague. Ah. Vous allez bien, vous ? L'ampoule dans mon bureau vient de griller, je dois m'éclairer la lumière du jour pendant que je développe, c'est l'âge de pierre. Ok, poum. Ah ok. Ça va pas que la machine is back, c'est quoi ce commentaire ? Oh ah, il y en a qui sont très en forme. Hein ? Je vous lis. Il est là notre seigneurie, j'ai beaucoup aimé Mathilde. Il est là notre seigneurie, j'aime. Ça j'ai aimé. C'est la fête, c'est cool, il fait gris, dehors ça fait du bien. Je vais à peine regarder. Comme il y a assez peu de distance entre ma maison et mon petit studio, je n'ai même pas le temps de voir s'il fait beau. S'il fait... Souvent, je sors du studio l'après-midi, et je fais « Oula ! Ah, il fait beau aujourd'hui !» Ou variante « Oula ! Oh, il fait froid aujourd'hui !» Puis je rentre chez moi. Ouais. Après, il y a des journées où je passe littéralement 1 minute 30 dehors. Poulidor, Alexandra, hello, merci beaucoup auprès des livres. Dieu sait si j'aime ce pseudo. Merci pour le 10e mois. Tangerine Nightmare, 24 mois. Merci pour ton message, ton soutien. Roux 92, merci beaucoup pour le prime. Ah. Vous allez bien, vous ? Hier, j'ai eu une petite soirée secrète avec des streamers, streameuses. Pas du tout en live. C'est une espèce de réunion secrète. Pour parler de Twitch. Je ne peux pas en parler, c'est un secret. Et à l'occasion de cette... C'est drôle, il m'arrive un truc trop mignon. Donc hier soir, c'était une réunion secrète, dans un endroit secret, avec des gens secrets, pour parler de choses secrètes. Et il y avait beaucoup de monde. On n'était pas loin de 200. Ouais. Bref. Et à un moment, il y a une dame qui vient vers moi, enfin une jeune femme. Oui, 200. Qui vient vers moi, une jeune femme, et qui vient me dire « Samuel, est-ce que je peux vous déranger ?» Je dis « Non. Non, tu vois pas que je suis occupé là, mais là, vous faites rien. » Et insolente en plus. Non, pas du tout. Donc je lui dis « Bah oui, évidemment, oui, pas de problème. Oui, dites-moi. » Et elle me dit « Est-ce que vous vous souvenez d'une visite dans un collège de banlieue parisienne, de région parisienne, il y a une dizaine d'années, elle me donne la date, je crois. Et je lui dis, attendez. Juste avant question pour un champion, il y a une dizaine d'années, lycée de région parisienne. Oui. Et en fait, je vois très bien l'image, parce qu'à l'époque, j'avais un peu de temps, donc j'allais souvent parler d'éducation aux médias, de médias, quand j'avais l'occasion, auprès des plus jeunes. Et effectivement, je me suis rappelé du mail très touchant d'une enseignante qui m'avait dit à l'époque, voilà, je suis prof, peut-être d'histoire géo, ou peut-être, comment on dit là, les bibliothécaires, là, dans les lycées. Il y a tous les trucs, là. Documentaliste, CDI, voilà. Peut-être CDI. Et qui m'avait invité, m'a dit, voilà, est-ce que vous ne voulez pas parler des médias, de l'éducation aux médias, à ma classe de 3e, quoi. Et le mail était vraiment gentil donc, et bien tourné et tout ça. Et les propositions comme ça, je recevais plein, mais... Je l'accepte, celle-là. Et donc, je vais à Perpète-les-Oies. C'était vraiment... Moi, quand je sors de Paris, c'est wouhou ! Je prends mon passeport, tout ça. Et j'arrive à trouver, déjà. Salut, nugget au poulet. C'est bon, ça. C'est trop mignon. Ça va, le stage. Et donc, je lui... oui, je me souviens. Et elle me dit, eh bien... Perpète, genre à 20 minutes de Paris, même 10 minutes. Et je me souviens, et là, elle me sort une photo. Parce qu'à l'époque, on avait pris un selfie. Voilà. Et on s'est fille avec toute la classe, ils étaient trop gentils, tous ces jeunes. Bon, je pense qu'on était collège, donc quoi, c'est fin de troisième, quoi. Troisième, par là. Auprès des livres. Professeur documentaliste. Ils sont à cheval, sur les termes. Voilà. Et là, je vois la photo et je me vois. Bon, le même, hein, j'ai pas changé. Hein. Et je vois la jeune femme, qui était donc une jeune fille, dans la photo. Et voilà. Et voilà, 10 ans ont passé, elle se rappelait de cette rencontre. Et du coup, elle bossait dans les lieux qu'on a visités hier soir. Incroyable. Voilà. Incroyable. Et trop. Donc, après, on a parlé de musique, je crois, latino, j'y comprenais rien. Qui était fan de musique latino, m'a parlé d'artiste, rien compris. Ouais, une photo couleur, ouais. C'est quoi sous-entendu là, hein? Attends. Il m'a parlé d'artiste. Alors il y en a qui s'appelle Ro Alejandro, et l'autre c'est Bad Bunny. Elle me dit bon Bad, elle était avec une copine, des fans de musique latino. J'ai dit, je connais pas trop. Bad Bunny, tu connais, tout le monde connaît Bad Bunny. C'est le plus connu. Bad Bunny, le mauvais lapin, quoi. Et je connaissais pas. Donc voilà, j'ai mis ça dans ma playlist. Faut que j'écoute Bad Bunny et tout ça. Voilà. C'est Banger ? Non, c'est Bad Bunny. C'est pas Bad Bunny, c'est Banger. Non, son nom, c'est Bad Bunny. Je crois pas que... C'est Bad Bunny, c'est Banger, son nom complet ? C'est Bad Bunny, hyper connu, c'est cool, son nom ? Bad Bunny, c'est excellent. Mettez-vous d'accord, c'est quoi son nom ? Merci à Jean Prout, ça c'est du pseudo. Merci à Huawei 59, merci la tote. Ok, donc voilà, chouette rencontre, ça m'a fait plaisir. 10 ans après, elle se souvenait de cette visite. Tu nous prends pour des cons, Banger, tu sais pas ce que ça veut dire ? Peut-être que je vous prends pour des cons ici, voilà, ça, on sait pas, on peut pas dire, hein, c'est pas ça. Hein. Non, ça on sait jamais ici. Ça, c'est tout le sel de ce stream. Ouais. Eh oui. Mais on nous prend pas pour des prunes. Peut-être que. On sait pas. Tu es bon au poker ? Dans une autre vie, j'ai beaucoup joué au poker. Tu vas tester Crusader Kings un jour ? Alors, à propos de ça, je vois plein d'amis qui sont en live là, depuis un jour ou deux, sur Twitch, sur Kingdom comme Deliverance 2. Et hier soir, ma petite routine du soir, en me couchant. Deux. Et hier soir, en me couchant, je vois et encore ce matin, des gens sur ce jeu. Et j'ai vu des belles images, et j'ai vu un gameplay qui avait l'air de me plaire, quoi. Donc, je parlais de Crusader Kings. Oui, Sugar Frog, mais moi, je parle de... Suivez un peu. Putain, la vache. Tout réexpliqué à chaque fois. Kingdom comme Deliverance 2. Ok. Est-ce que ce jeu a l'air aussi cool que l'impression que j'en ai eu? Ultra Loulou, oui, tu devrais essayer. Je sors de la douche, me dit Ragnok. Merci. Il a pas un qui suit. C'est super, Kingdom Come. Il a l'air trop bien. Meilleur que le premier, en tout cas. Hyper sympa, Banger. Qu'est-ce que vient faire le chanteur Non, je sais pas. Ça se passe en 1402, c'est un peu avant ta naissance. Ok, Aldo, Bandef, clac, clac, clic droit, bim, bim. Ok. Immersive, bonne histoire. Il y a plein de gens sur League of Legends aussi, tu peux retenter. Je connais pas. League of. Comment tu. League. La Ligue des Légendes, quoi. C'est un jeu, ça ? Je connais pas. C'est un petit jeu indé. Je connais pas. Kim. Hein ? Kim.com, c'est pas un jeu. Pas la ref. Salut Samuel, j'ai tenté de débattre avec la personne ayant associé ton sujet d'hier avec une maladie mentale, du moins de lui faire comprendre sa bêtise, mais c'est impossible. Eh oui. Parfois la maladie mentale n'est pas où certains le disent. Oh, qu'est-ce que j'ai encore dit ? Okay. Merci Alexandra, tu es la reine. Combien d'heures semaine aujourd'hui ? Pas assez. Mon épouse m'a fait un coup bas ce matin. Mon épouse adorée, la lumière de ma vie, mon élu, mon alter ego, m'a fait un coup dur là. Non, pas un coup dans les parties. Non, mais parfois Hélène, elle travaille beaucoup. Elle rentre du boulot, elle est très très consciencieuse, très impliquée. C'est beau lui dire, écoute, tu seras payé la même chose à la fin du mois. Hein. Non, elle donne tout ce qu'elle a, quoi. Donc, grosse journée, elle travaille tard le soir, souvent, elle met le réveil le matin et tout. Mais Hélène, elle a un petit truc parfois, c'est qu'elle met le réveil très tôt, et puis finalement, elle se ravise. Pas elle se révise, c'est pas une voiture, c'est une personne. Elle se ravise, elle change d'avis. Voilà. Et donc, par exemple, ce matin, moi j'ai mis mon réveil à 6h, 6h30, 6h30, pour lire les journaux, mais Hélène l'avait mis à 5h30 pour bosser, avant le réveil des enfants, tout ça. Et donc, le réveil sonne à 5h30, et puis, elle ne se lève pas, finalement, elle se ravise, un peu fatiguée, si je vais dormir un petit peu plus. Mais moi, j'étais réveillé. Et moi, je n'ai pas pu me rendormir parce que tout de suite j'ai pensé à des trucs de taf, des machins que j'ai en tête. Voilà. Et au bout de 10 minutes, moi, je me suis levé. Voilà. Merci. Et l'amour fait que, eh bien, à aucun moment je n'en ai voulu. Ma femme fait exactement pareil, mais les femmes font ça. Je sais. Mais l'amour fait que je n'en ai aucun voulu. À aucun moment voulu, et je me suis levé, je me suis dit, bah voilà, tu vas bosser un peu plus, tu vas répondre à des mails, tout ça. Voilà. C'est mon mec qui fait ça? Ah ouais, mais ça devrait être interdit. Ça devrait être interdit, ça, la Milou. Ça devrait être interdit, ça. Par contre, ça devrait être interdit. Non, les gens qui mettent le réveil tôt et qui, ce faisant, réveillent leur conjoint et finalement eux se rendorment. Non, ça devrait être. Ça devrait être illégal. Elle bosse dans quel domaine pour être aussi occupée? Elle s'occupe des affaires du monde. C'est-à-dire que toutes les crises internationales dont vous entendez parler là, quand, vous voyez les gros problèmes, les grosses. Vous voyez quand c'est un moment ça se règle, les gens trouvent des solutions, c'est Hélène. C'est Hélène, elle règle tout. Merci, t'as eu l'aide. Merci pour le soutien. Voilà. En fait, dès qu'il y a un problème dans le monde, les gens lui écrivent et après elle essaie de régler ça avec ses petites mains. C'est pour ça qu'elle ne dort pas beaucoup. Et donc, elle règle tout. Elle est en train de travailler sur deux, trois gros dossiers là. Ta femme, c'est Donald Trump? Non. Donald Trump, il dérègle tout. Non, j'ai dit elle règle tout. Pas elle dérègle tout. Non, elle ne provoque pas les guerres commerciales. Elle essaie de les résoudre. Ah non. Non, non. Non, ma femme, elle n'a pas dit je vais vous régler. La crise ukrainienne en 24 heures, en campagne présidentielle, et finalement, elle est élue, puis elle s'occupe de rien, et puis elle annonce que finalement, ça va prendre plusieurs mois. Non, ben non. Ah non, on parle de quelqu'un de sérieux, quand même. Je vais vous en parler de l'Ukraine ce matin. Eh oui, ah ben non. Elle fait ça comme métier. C'est pour ça qu'elle est très occupée. Eh oui. Bulliner, j'ai un problème d'addiction à Twitch. Hélène peut-elle m'aider? Non, non, ça c'est une très bonne addiction, ça. Ça c'est une très très bonne addiction. Très très bonne addiction. Salut Camille. Bon, vous allez bien? Ah, j'arrête de dire des bêtises. On va faire une revue de presse express ce matin parce qu'à parfum midi, j'ai un rendez-vous avec quelqu'un pour parler de Valorant. Eh ouais, ça c'est ma vie, ça. À midi, j'ai un Teams pour parler de Valorant. Vous voulez dire que Donald Trump a menti lors de sa campagne? Ouais. Il a annoncé qu'il allait régler la crise ukrainienne en 24 heures. Et là, ce matin, on nous explique dans la presse qu'en fait, il a dit bon, ça va plutôt prendre plusieurs mois. Oh! Comment ça, un politique qui nous a menti pendant une campagne électorale? C'est incroyable! C'est incroyable! C'est fou ça! Comment ça, les politiques, parfois, ils respectent pas toutes leurs promesses? Qu'est-ce que c'est que ce scandale? Ouais. Parce que c'est marrant parce que pendant la campagne, les gens parfois dans le chat me disaient ouais, mais lui il va s'occuper de l'Ukraine, ça va être réglé pendant 24 heures. Hein. Voilà. Et en fait, bah non. C'est fou. Il y a les gens qui l'ont cru. 12h, Teams pour parler de Valorant. 13h, Teams pour parler de la production d'un gros stream qui arrive. Avec donc tous les gens qui vont s'occuper de la technique, tout ça. 14h. Teams pour parler d'un gigantesque projet professionnel qui va peut-être bouleverser ma vie. Merci Alam1498, merci Fal AK Falin, merci King Blee Gaming, merci Claire MGT, merci Alexiage, mon boys band préféré. Ouais. Il a dit qu'il réglera en 24 heures, il a pas dit qu'il s'en occuperait, c'est pas faux SDF. Autant dire qu'on va être occupé, quoi. Bon, et vous, ça va, vous ? Est-ce que ça va bouleverser nos vies aussi ? Non, faut pas déconner. L'interview avec les journalistes du Monde, ça a donné quoi ? Ça va, ergo, mais j'attends l'article. Merci, Cheb ! T'es le meilleur. C'est quand le coaching avec Mel ? Ouh ! C'est peut-être imminent, on sait pas. Il attend le titre racoleur. Oh, on n'est jamais déçu, il dit du spam là-dessus. Je t'envoie la force Redra. Pas besoin, j'ai ma petite équipe, mais force Redra. Bientôt présentateur du JT de 20h. Ah oh, bah non, Fabrice, ça on a fait ça, le JT. Non, non, on fait plus ça. Non, on fait plus ça. Non, on stream ici. Non, 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 non. Bonne chance, Woodo Cry. Est-ce qu'on se ferait pas un petit sommaire ? Bonjour Samuel, comment vas-tu aujourd'hui ? Dodalito, attention aux rhumes, aux autres maladies en ce moment, c'est l'enfer. Attention, les protégez-vous, faites attention, hein. Moi, en ce moment, dès que j'en prends les transports en commun, ou dès qu'il y a du monde, le masque. Pas parce que je suis malade, mais pour me protéger, les petits virus et tout. Là, il y a des grippes de partout, là, faites gaffe. Les rhumes, les machins, quoi. J'aurais dit, je m'attège, mais grosse flemme ce matin. Allez, Côte Cibelle, allez, on envoie tout. Allez, on donne tout. Allez, va chercher tout au fond de toi, là, les petites parcelles de motivation. Là. Let's go. Il faut surtout bien se laver les mains. Ça aussi, je me lave les mains. Je me lave les mains, je mets le masque. Là, en ce moment, j'échappe au virus. Là. Au moins, sur Twitch, tu n'as pas de ligne éditoriale due aux gens télévisés. Ben ouais, on ne m'impose rien, en tout cas. Ça, c'est cool. Merci Jean, qui nous rappelle que c'est la journée nationale de prévention du suicide. Aujourd'hui, une pensée pour ceux qui souffrent. Vous n'êtes pas seul. J'en profite pour rappeler que sur cette chaîne, si à un moment, vous avez des petits coups de moins bien, hein, d'ordre professionnel, amical... affectif, si ça va pas. Ici, on prendra toujours le temps de vous parler. Voilà, ça nous arrive tous, ça nous a tous arrivé, ça nous arrivera tous d'avoir des moments de down, des gros soucis, des accidents de la vie. Voilà. Et donc, dans ces cas-là, il faut serrer les coudes et on sera toujours là pour vous écouter. Voilà, pas pour régler vos problèmes, vous donner des conseils, parce qu'on n'est pas des professionnels, mais pour vous écouter. Et passer et faire attention à vous. Quoi. Voilà. Fort sur Tikan. Et dites à vos proches, comme le dit Eiferji, que vous les aimez et que vous êtes là pour eux avant qu'il soit trop tard. Tellement raison, t'as tellement raison. Ouais. Merci Xnay. Voilà, et vous êtes plusieurs, donc Jean, à nous rappeler que le 3114, c'est le numéro national de prévention du suicide qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quand ça ne va pas, ne restez pas seul, parlez-en à vos proches, à votre famille, si vous avez une famille aimante, à vos amis, si vous avez la chance d'avoir des amis. Voilà. Et si ça n'est pas le cas, si vous êtes seul, voilà, il y a des professionnels, il y a des gens qui sont là pour ça. Voilà, le numéro qu'on vient d'évoquer, il y a des médecins et tout. Donc ne restez pas seul. On va tous connaître ces problèmes-là. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Voilà. Certains sont plus chanceux que d'autres et rencontrent moins souvent ces écueils. Mais voilà. Quand ça ne va pas parce qu'il n'y a pas de proches, que la famille enfonce, que les amis ghost, bah Emma, c'est ce que je viens de dire. Dans ces cas-là, hélas, bah, il reste les professionnels de la santé, les médecins, le numéro que je viens de donner à l'instant. Quoi. Ouais. Merci, mademoiselle Dumain. Et puis, il y a des endroits comme ici aussi où régulièrement, il y a des gens qui viennent nous parler de leurs soucis, on les écoute. Et puis, je me rappelle toujours de ce jeune homme qui, il y a quelques mois, est venu nous voir dans le chat parce que ça n'allait pas du tout dans son alternance, dans l'entreprise où il était. Et on sentait que ça lui pesait très, très fort. Il n'arrivait pas de sortir d'une boucle très négative. On sentait que ça n'allait pas fort. C'était une jeune personne, un jeune homme, je pense. Et puis, on vous a été très nombreux à l'écouter, à lui donner des conseils. Voilà, et puis il n'osait pas en parler dans l'entreprise, il n'osait pas parler dans son école, il n'osait pas parler à sa famille. Il a finalement il a réussi à, suivant vos conseils, à aller parler avec son école. Tout s'est arrangé avec l'entreprise et il est revenu 15 jours après, je crois, pour nous dire que... On a des nouvelles de lui, tout à fait, gros loulou. Il est revenu 15 jours après dans le chat pour nous dire, pour vous remercier, puisqu'en fait, il avait suivi vos conseils et puis il avait tout réglé, quoi. Let's go. 12 séances de psychologue prise en charge par la Sécu, par la mutuelle, parents, essayez, je suis en train de tester, c'est pas facile, mais ça va le faire, me dit Clément. Voilà. Ce n'est pas honteux de demander de l'aide, on a tous besoin un jour, me dit Utopia, pour une raison ou une autre, il y a toujours de l'espoir, même quand on n'est plus en mesure de l'avoir. Vous avez tellement raison. Ouais. Zoé, si vous vous souvenez de l'histoire, bah voilà, ouais, ça s'est bien arrangé. Il y a Hotshoot qui nous dit, je suis hyper stressé pour une échéance pro qui va changer ma vie, qui va arriver dans 2 semaines. Je ne sais pas comment gérer ce stress, des conseils. Comment gérer le stress, je ne sais pas. Après, comment prendre la bonne décision, pas facile. Il faut essayer d'entendre la petite musique en toi qui va te dire quelle est la bonne solution. Moi, je sais que quand j'ai une décision importante à prendre, pour me laver la tête et pour être sûr de prendre la bonne décision, je vais courir. Le sport me nettoie la tête et au bout de, je sais pas, 3/4 d'heure, 1 heure, la solution que je n'arrive pas à trouver s'impose à moi. En mode, waouh ! Mais si, bien sûr, c'est ça, c'est magique. Après, il faut trouver le truc qui va marcher pour vous, quoi. Ouais. Voilà, il y a plein de conseils. Sortir, s'aérer, faire du sport, voir des amis. Détends-toi sur Valo. Non, Neruko. Valorant, t'es absolument pas un truc qui baisse le stress. Aller au parc Astérix, merci, Island Ghoul. Exercice de respiration, musique douce de spa, tu t'allonges, tu fermes les yeux. Faut aimer courir. Bah voilà, balèze, c'est pas, ça dépend des gens, quoi. Salut, why not Lily, et salut à ta coéquipière. Avoir un chat, dit Sarah. Alors ça dépend des gens. Moi, ça marche pas. Fumer hein, quoi, hein, Sarah, quoi, fumer un gros, hein, quoi, Sarah, hein, quoi, Sarah, quoi, un fumer un, oh là, hein, ok, quoi, je dois poser ma démission dans quelques jours, je suis en stress total H24, je comprends Sissim, je sais que c'est la bonne décision, ça c'est cool, mais c'est dur, effectivement le footing m'aide beaucoup à gérer mon stress, je conseille le sport en général, toi c'est pas complètement con. Comment tu fais dans Question pour un champion pour réussir à passer après Julien Lepers comme Kozo ? Eh oui, 9 ans déjà. Un seul mot. Enfin, deux. Le talent. Bien sûr. Quelle autre explication ? Quelle autre explication ? Bon. Comment la question peut être posée, quoi. Mais oui. Et l'humilité aussi. Et l'humilité. Tu as été très stressé quand tu as posé question pour un champion ? Non, Azulina. Moi, j'ai débranché le truc du stress il y a longtemps. Non, pas l'humidité. Non, ça, c'est la Bretagne. Moi, j'ai débranché le truc du stress il y a très longtemps. Je ne sais plus pourquoi. Il n'y a plus rien qui me stresse. C'est drôle. Il n'y a plus que le plaisir, la concentration quand je fais un truc... C'est marrant. Je stresse en... Ah non, jamais, je sais pas. J'ai débranché, mais c'est la vieillesse, c'est l'âge. Merci, Cheb. Merci encore, Cheb. Merci, Alam. Merci, Fal, Aka, Falin. Je t'ai remercié tout à l'heure, je pense. Falin. Voilà. Non, je stresse plus. J'ai débranché ça. Même sur en clutch, non, c'est pas du stress. C'est de la concentration, puis de la colère, tellement je suis nul. Comment tu as fait pour te débrancher de ça ? Tu as des tips ? Bah, tu prends la prise du stress, tu te débranches. Vous n'avez pas, vous, la prise du stress ? Vous prenez la prise du stress. Enfin, le truc qui... Moi, j'ai fait ça. C'est pas compliqué. T'es stressé ? Arrête ! J'ai la ref. Comment s'est passée l'émission Question pour un champion d'étoiles sans donner de résultat ? Neverno, tu vas être surpris parce que je vais vous donner le résultat. J'en ai marre de ce secret qui va être levé le 22 mars. Le 22 mars, c'est trop loin, c'est quasiment dans 2 mois. Je vais vous dire ce qu'a fait Étoile. Donc, Question pour un champion. On ne peut plus, moi, je vais vous dire. On ne peut plus. Je suis là, ah, qui a fait étoile? Étoile. Il est venu dans question pour un champion. Et comme certains me le disent dans le chat, il a participé. Merci Keiju pour le soutien. Et oui, j'avais promis de ne pas le dire, j'avais promis de ne pas leak, mais je suis un leaker fou, un leaker fou. Il a participé. Et oui. J'appelle l'Arcom. Rien à foutre, moi je balance. Merci Zoé Rise, merci pour le 10e mois. Je sais pas par contre ce que je vais faire le 22 mars, c'est un samedi, si je le stream ou pas, ça va dépendre. Si Rayou le stream, s'il react, je le ferai pas, je lui laisserai. Si je vois qu'il le fait pas, je le ferai. Ouais. J'aime leaker, j'adore leaker. Leaker, c'est ma vie. Je leak le matin, je leak le midi, je leak le soir, je leak même. Je me réveille la nuit en hurlant. Ah, je leak ! Je leak. Moi, je leak. Je suis un leaker. Pour stream à deux, oh bah c'est Rayou qui décide. Je vous rappelle que le react de question pour un champion, c'est lui. Moi, question pour un champion, c'est moi. Ah, c'est moi qui présente. Le premier qui essaie de m'enlever cette émission, c'est low kick, high kick, middle kick, front kick, kick, back kick. Voilà tout ça. Mais donc, question pour un champion, c'est moi. La nuit des cultures, c'est Rayou. Voilà. Donc, si Rayou veut me proposer de React à deux, on fera, mais c'est lui qui décide. Hein. Ouais. C'est quoi le leak ? J'ai eu une pub. Je peux pas dire. Fallait être là. Ouais. Oh, bon, ouais, faut y aller parce que moi, je vous lâche à midi. Pff, on a plus que 2 heures. On y va ? Bien sûr qu'on va faire du cyberpunk. Dès que le projet de Trump, c'est un truc qui est passé inaperçu dans sa campagne, mais à un moment, Trump, dans sa campagne, il a promis que les journées de 24 heures allaient passer à 48 heures. Voilà. Et là, je me suis dit, putain, si j'étais aux États-Unis, je voterais direct pour ce mec. Quoi. On va pouvoir faire tellement plus de trucs. Quoi. C'est totalement passé inaperçu, personne n'en a parlé. Et donc, dès que ce projet passe, c'est parti. Et là, c'est parti. Je rejoue à tout. À The Witcher, à Cyberpunk, à tous les jeux auxquels j'ai envie de jouer. Quoi. Quoi ça, MDR. Vous avez pas suivi ça. Ouais. Ouais, je manque de temps, clairement. Samuel, il y avait une question d'une personne qui commence à travailler dans la télé pour toi. Ok, bah fuis. Alors, je n'ai pas vu ta question. Prends tes jambes à ton cou et fuis. Fuis. Qu'est-ce que tu veux faire en télé ? C'est... Viens sur YouTube ou sur Twitch. T'es vieux, t'es une vieille personne. T'es une vieille personne ? Faut que je retrouve la question. Elle est où la question ? Ah ! Disco triste. Hello Samuel, je bosse depuis la rentrée au RS. Ah ! Réseaux sociaux. D'une grosse émission TV. C'est ma première XP. Là, dans ce milieu, je ne suis pas parisienne. Ben, on s'en fout. Ben, à la télé, c'est que des provinciaux. Hein. Donc je reste stressé, mal à l'aise. Tu aurais des conseils pour se faire sa place dans ce genre de milieu ? Redevenons sérieux un moment. Merci Letty pour le 15e mois. C'est, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est pas un milieu hardcore. Les gens sont pas plus méchants dans ce milieu de la télévision qu'ailleurs. C'est juste le monde du travail. Donc, je vais vous faire une énorme révélation. Dans le monde de la télé, c'est comme dans tous les milieux professionnels. Il y a des gens formidables et il y a des gros cons. Voilà. Donc, ça n'est pas ni bien ni mal en tant que tel. Donc, essaye de trouver dans ce travail, comme dans n'importe quel secteur professionnel, les gens qui vont être, qui vont t'apporter du positif, voilà, te tirer vers le haut, être prévenant avec toi et correct et aimable. Et puis les autres, tu les évites soigneusement si tu peux. Tu vas vite les reconnaître, les toxiques, volontairement ou volontairement. Voilà. Mais sois pas, parce que tu te dis tu n'es pas parisienne, donc je reste stressée, mal à l'aise. Parle avec les gens autour de toi. Tu vas voir les Parisiens. Des vrais Parisiens dans ce milieu, il n'y en a pas en fait. Hein. Les gens viennent de partout. Quoi. Et ils ont tous été à ta place, quoi. Et globalement, les gens sont plutôt prévenants, d'ailleurs. C'est un milieu où c'est un petit milieu. Et je suis sûr, quelle que soit la chaîne pour laquelle tu bosses, quelle que soit l'émission, la boîte de prod, globalement, les gens sont prévenants. Voilà. Notamment aux gens qui débutent, tu serais surprise, en fait. Hein, je dis surprise, oui, stressée. Tu serais surprise. Si tu vas vers les autres, je pense que l'immense majorité des gens vers qui tu vas aller vont être prévenants et vont essayer de t'aider, quoi. Donc il y a aucun. Mais voilà. Mais n'hésite pas à aller vers les autres. Je pense que tu seras agréablement surprise. Moi c'est ce qui m'a. C'est ce que j'ai vécu dans ce milieu. Je parlais de gros cons. J'en ai croisé très 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 peu en 30 ans. Très très peu. Je pourrais vous donner quelques noms, mais ça irait très très vite. Je pourrais vous donner 2-3. Allez, ça tient sur la main. En 30 ans, j'en ai croisé des gens. Voilà. Vous voulez les noms ? Je peux vous les donner. Ils sont tous vivants. Voilà. Bon, certains, presque plus. Mais ah, arrête, Samuel ! Voilà. Donc, mais en vrai, ça veut dire que 99,99% des gens que j'ai croisés étaient des gens prévenants, quoi. Le liqueur fou. Je suis un liqueur, moi. Je lique. Donc, voilà. Va vers les autres. Tu ne seras pas déçu. Et puis si ça va pas, tu écris-moi en DM sur Twitter, dis-moi avec qui t'as un problème dans ce milieu, je viens et je lui pète la gueule. Voilà. Voilà. Bam ! C'est toi qui emmerde. C'était comment le pseudo ? Dick ou triste ? Attends. J'ai pas eu ton pseudo. Merde. C'était Dico Triste, je crois. Bref, c'est toi qui emmerde. Hein ? Ouais ? Dico Triste, ouais. C'est toi qui emmerde Dico Triste ? Tu sais pas qui c'est Dico Triste ? T'inquiète. Bam ! Allez, tiens. Maintenant, t'es gentil avec tout le monde. Disco Triste. Oh, Disco Triste. Ok. Sam, il va pas rester beaucoup de temps pour la revue de presse. Let's go ! Allez, sommaire, vous avez raison, je suis très en retard. Alors, vous avez raison, parce que là, c'est pas possible. À midi, je cut. Ça va être une revue de presse express. En plus, il y a plein de trucs. Il faut qu'on règle la marche du monde ce matin. Ouh, la belle chaise de cockpit. Allez, sommaire. Vous avez raison. Putain, je me fais engueuler par la commune. Hey, la revue de presse. Les notes. Ok. Alors, faisons un sommaire assez sommaire. On va commencer par... Alors ça, c'est un truc incroyable. On va du côté du Parisien. Hop. Voilà, je parle pas souvent d'affaires judiciaires, moi. Voilà. Encore moins d'affaires judiciaires non réglées. Mais là, je trouve que c'est assez étonnant. Rapidement, on parlera de ça ce matin. Chevaline. Vous vous souvenez de la tuerie de Chevaline ? La piste du tueur fou se précise. 12 ans après la tuerie, c'est un énorme mystère. Il y avait une famille qui avait été abattue, notamment par un tireur dont on ne connaît pas l'identité aujourd'hui. 12 ans après la tuerie, le pôle Cold Case privilégie désormais l'hypothèse d'un militaire particulièrement entraîné aux techniques de tir sans mobile explicable. En fait, l'enquête 12 ans après, elle n'est pas refermée, et ils ont une nouvelle piste, une piste hyper carrée. Voilà. Oui, il y a un cycliste qui avait trouvé la mort aussi. Ouais. Oui, je veux dire, une famille notamment. Donc quand je dis une famille notamment, c'est que il n'y a pas que la famille. Donc l'hypothèse d'un militaire des forces spéciales, peut-être des forces spéciales suisses. Waouh, j'ai oublié cette histoire. Sim, tu as raison. Ce qui est intéressant, c'est que la justice, elle, n'a pas oublié. Donc je trouve que c'est assez positif d'apprendre qu'il y a des gars, 12 ans après une enquête, qui continuent. Ouais, il y a une survivante, c'est la petite fille. Je crois qu'il y a même 2 survivants. Attendez, on va lire l'article. Les mecs, les gars dans le chat sont en train d'écrire l'article. Oui, alors donc il y avait une petite survivante, il y avait un cycliste aussi, ça s'est passé dans tel endroit, et puis il y avait eu ça comme piste, etc. Et tout. Ouais. Alors on va lire l'article. Hein. Voilà. Et donc, moi je trouve ça assez rassurant de savoir qu'il y a des enquêteurs qui, 12 ans après, ne lâchent pas l'affaire et cherchent la personne qui a tué ces gens. Voilà. Je trouvais ça assez positif comme actu en vrai. Voilà. 2 petites filles survivantes, ça y est, ça continue à écrire l'article dans le chat, c'est incroyable. Ça, je vais appeler le Parisien parce qu'en fait, c'est pas la peine d'écrire l'article, on a tout ce qu'il faut dans le chat. Arrêtez d'écrire des articles, les gars. J'ai mon chat. Hein. Donc ça, c'est la tuerie de Chevaline. La suite. Ensuite, Bayrou, des nouvelles de France. Alors ça, c'est dans le Parisien. On va aller, je vais vous donner des nouvelles de Bayrou rapidement ce matin dans La Croix, page 11. Tchouk, 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 tchouk. Voilà. Donc, a priori, pas de motion de censure. Pas de motion de censure. Aujourd'hui, hein, c'est aujourd'hui que la motion de censure devait être votée, puisque les socialistes, a priori, surprise, soyons prudents quand même, ne vont pas voter la motion de censure, et le RN ne la voterait pas non plus, a priori. Donc, pas de motion de censure, pas de gouvernement qui chute, voilà, sur le 49-3, après le budget, est-ce qu'il y aura des jours plus tranquilles à Matignon? Le gouvernement de François Bayrou ne devrait pas chuter ce mercredi, après la décision socialiste de ne pas le censurer. En négociant avec le PS, le Premier ministre a choisi une stratégie payante qui lui offre un répit pour se projeter sur des réformes de moyen à long terme. Est-ce que le gouvernement Bayrou va durer? C'est la question qu'on va se poser ce matin. Voilà. Des nouvelles de Bayrou, des nouvelles de l'Ukraine. Eh oui, parce que certains n'y pensent plus, oublient ce conflit qui dure depuis longtemps déjà. Et pourtant, la guerre, elle est là, en Europe, où on en est. Merci à Lacroix ce matin, c'est sa une. Regardez. Lacroix, Ukraine, seuls les fous n'ont pas peur. Reportage sur le front ukrainien, dans les tranchées auprès de soldats usés par 3 ans de guerre. Où en est-on de cette guerre en Ukraine? Eh bien, en un édito, on a Jean-Christophe Ploquin qui nous rappelle où on en est exactement. Et qui rappelle notamment la promesse de Donald Trump. Hein ? La perspective de négociation au rendement menée par Donald Trump, redevenu président des États-Unis, s'est évanouie depuis son investiture le 20 janvier. En campagne électorale, il affirmait pouvoir résoudre la question en 24 heures. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Aujourd'hui, on n'attend pas de proposition de son administration avant 4 ou 6 mois.
Bon, c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Ça chipote. 24 heures, 6 mois. Hein ?
Alors, on lira cet article, on en est de la guerre en Ukraine. Des nouvelles aussi ce matin de Donald Trump. Ah oui, parce qu'il est élu, mais il fait des trucs. Alors, il ne s'occupe pas de la guerre en Ukraine finalement, en 24 heures, parce qu'il a d'autres trucs. Par contre, il lance la guerre commerciale. Alors, vous savez, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Et il lance la guerre commerciale, il lance la guerre et après, il recule. Bon, le monde en ce moment, il ne veut pas. Le monde, ça ne veut pas en ce moment. Quand je mets le monde, c'est tout noir. Faire des captures d'écran. Ok. On attend un petit peu. Tu veux pas ? Hop, capture d'écran. Ok, je vous mets ça. Ah, c'est marrant, il fait ça le monde. Ah, j'ai compris. Ah, c'est drôle, c'est le monde fait bugger, c'est intéressant. Ah, intéressant. Voilà. Le monde, j'ai contourné le monde. Oh, je sais comment faire. Okay. Le monde, donc, alors, plein de Turcs sur Trump, parce qu'il n'y a pas que ça, mais il y a plein de Turcs sur Trump. Donc, il a annoncé la guerre commerciale et finalement, il recule. Hein, il recule parce que les réactions des marchés boursiers ne l'ont pas trop plu. Voilà. Mexique-Canada, volte-face de Trump sur les droits de douane. Pourquoi il recule? Comment veux-tu? Tout ça. Tarifs douaniers, les limites du bluff de Trump. Donc, alors certains vont dire ouais, mais c'est super, il est trop fort, il bluffe, il dit qu'il va tout casser, et puis en fait, il obtient des trucs, donc il casse pas. Quel génie, hein. Vous avez ce genre d'analyse. Et puis, dans les journaux ce matin, on vous dit ouais, mais attention, ce genre de bluff, ça peut marcher sur un tour de carte, mais sur 4 ans, la durée de son mandat, peut-être qu'à un moment, les mecs en face, les partenaires commerciaux, les Chinois, les Européens, les Canadiens, ils vont dire ouais, tu vois, peut-être un peu se méfier et tout. Donc ça peut, au final, ça peut être un peu compliqué pour l'Amérique et peut-être les Américains. Donc on va se pencher sur les conséquences de ce genre de stratégie, tarifs douaniers, les limites du bluff de Trump. On se penchera là-dessus dans le monde. Alors beaucoup parlé de Trump ce matin, c'est pas moi, hein, c'est pas de ma faute, c'est lui qui est dans l'actualité, et notamment de ce qu'il est en train de faire, sa tentative de démanteler l'État fédéral pour chasser ce que lui appelle un peu les feignants, tout ça, et puis surtout faire des grosses économies. Vous savez qu'il a nommé Musk dans cette mission spéciale. Donc, on ira voir sur ce sujet, number 5, la une de Libération. Très en colère, Libération, ce matin, là-dessus. Hop. Elon Musk, le liquidateur. L'homme de main de Donald Trump, sans aucun mandat démocratique, il n'a pas été élu. Il n'a pas non plus été investi par le Congrès, enfin, il n'a aucune légitimité démocratique. Des membres, en ce moment, hein, avec ses petites mains, les agences gouvernementales américaines. Il débarque dans un truc, il dit, bon, bah, vous débarquez, vous partez, vous êtes licencié, ça ferme, je branche mon ordinateur, je prends les données, etc. Enfin, c'est surréaliste. Un coup de force administratif aux allures de coup d'État. J'ai lu le dossier de Libération et je dis, Libé, ils exagèrent. Qu'est-ce qu'ils racontent? C'est pas possible. Ce qui est en train de se passer aux États-Unis, ils exagèrent, Libé. Je me suis dit ça.
Mais du coup, après, je suis allé voir Le Figaro disait la même chose. Le Figaro qui n'est pas du tout la même éditoriale que Libé. Je dis, ah bon ? Ok. Et alors, je me suis dit, ah bon, donc ce serait vrai. Et après, je suis allé voir Les Échos, très, très, très différent de Libération. Ben, ils disent la même chose, que c'est un peu une dinguerie ce qui se passe. Voilà, Trump et Musk partent à l'assaut de l'administration américaine. Les dépenses d'aide à l'étranger, par exemple, ont été gelées pour 3 mois. Le personnel qui les gère, mis à pied. Voilà. Le patron de Tesla et son département de l'efficacité gouvernementale, le DOGE, je sais pas comment on dit, s'immiscent dans les agences fédérales, les ministères sans aucun garde-fou, voilà, à part l'hôte de la Maison-Blanche lui-même. Voilà. Le seul qui peut limiter le pouvoir de Musk, c'est Trump. Voilà. Donc on va se pencher là-dessus. Il y a des gros dossiers partout, dans Le Monde notamment, et aussi dans... qui en parle encore ce matin ? Donc ça, c'est Les Échos. Et dans Le Monde aussi, Le Monde en parle. Voilà. Je pense qu'on n'aura pas le temps de lire tous les dossiers sur ça. Mais voilà, certains s'inquiètent un petit peu, notamment de l'absence totale de contrôle démocratique de gens élus ou autres sur ce que est en train de faire Musk. Voilà, il gère ça comme si c'était sa boîte, une entreprise privée. C'est un peu ce que nous racontent les journaux. Voilà. Donc il ferme des trucs. Et il est accompagné par une bande de jeunes ingénieurs, ça parle de 400 personnes âgées de 19 à 24 ans. Les mecs, ils arrivent, ils branchent leur PC sans aucune accréditation. Et ils se connectent au truc et ils ont accès à toutes les données publiques. Enfin, ça pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Alors que normalement, en fait, ce seront des interventions qui nécessiteraient des accréditations. Enfin bon. Le mec, il gère ça comme une boîte privée, comme sa boîte, en fait. Voilà. Ça va sans doute partir en justice, tout ça. C'est assez incroyable. C'est assez surréaliste. Je revenais pas ce matin, en vrai, mais voilà, on va suivre ça. C'est assez complexe, en vrai, mais on va essayer de comprendre quand même ce qui se passe. On parlera de deux choses un peu plus légères. Pour terminer, j'accélère un petit peu parce que ce matin, je suis à la bourre. Est-ce que vous connaissez le sport qui s'appelle la crosse ? Vous connaissez ou pas ? C'est le Parisien qu'on parle ce matin, parce que c'est pas ça, moi. Enfin, vaguement. Non, c'est pas page 18 ? Si. Oh, je me suis gouré, c'est pas page 18. Je me suis gouré sur le numéro de page. J'ai noté page 18, mais c'est pas page 18. C'est où la crosse ? Hyperphysique, vous connaissez, vous ? Oui, ils connaissent tout. Tuche. Merde, c'est où la crosse ? J'ai noté page 18. Ah, c'est dans l'IB ! C'est pour ça que je trouve pas. Ouais, je pouvais trouver. La crosse, pas la cross country, non ? La crosse, le bon filet, haha, pour les Jeux de 2028. Hein, le sport d'origine amérindienne, quelqu'un me disait, ah oui, le truc belge là. Le sport d'origine amérindienne fait de nombreux adeptes dans l'Hexagone depuis son inscription au programme des Jeux de Los Angeles. Immersion à Toulouse entre crampons, plastrons et pièges à papillons. Voilà, il paraît que c'est top, il paraît que ça marche du feu de Dieu, il paraît que c'est génial. Voilà. Vous connaissez ? Ok. Ok, c'est incroyable. Mélange de hockey et de rugby violent, me dit Pascal, ok. Ouais. La crosse très présent comme sport féminin dans les écoles, me dit Sioride, les États-Unis très fort, donc sans doute médaille d'or pour eux. Merci Ratchet de l'Agora. Merci Nitrogène. Merci à tous les deux. Ok. Alors, @, j'en ai déjà parlé de ce sujet. Il y a peut-être un problème de... Comment on appelle ça ? Avec Trump et les cryptos, là. Hein, il y a peut-être un problème, parce qu'il est des deux côtés. D'un côté, il est investisseur, de l'autre côté, il est aux manettes. Et là, le problème, c'est qu'on pourrait faire des revues de presse entières que Trump le matin. À un moment, ça va nous casser les... On n'en pourra plus. Il y a aussi un sujet sur Trump et les cryptos en ce moment. On a déjà parlé @, mais ton message, il est pertinent. Non, mais ça, l'histoire de son fils, c'est encore autre chose. Moi, j'en avais parlé notamment avec la monnaie qu'il avait lancée, la monnaie un peu fictive. Là. Je pense qu'on va retrouver des trucs dans les prochains jours là-dessus. Donc, la crosse et des nouvelles de la K-Corp dans les Échos. Alors, je constate que le journal économique Les Échos suit de plus en plus l'actualité de l'e-sport. C'est vraiment intéressant. Et page 15, les amis, il y a un petit papier dans Les Échos ce matin. Voilà. Sur la santé financière de la K-Corp, qui se porte... c'est où la page 15 ? Putain, c'est du mal ce matin.
là.
Hop. Qui se porte, mais comme une fleur. Ouais. La K-Corp accélère encore. Selon nos informations, le club d'e-sport fondé par les deux créateurs de contenu de renom Kameto et Prime, drainant avec eux des millions de fans, est sur le point de boucler une levée de fonds entre 5 et 10 millions d'euros. Transaction qui valoriserait la K-Corp à 45 millions d'euros. Voilà. Et donc, c'est assez intéressant de voir comment un journal comme Les Échos, c'est quoi cette coiffure ? Eh bien, se suit l'actualité économique. Ça s'appelle Les Échos, hein. Du jeu vidéo, d'internet et notamment maintenant de plus en plus de l'e-sport. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Voilà. Bon, on y va. Chut, je vous abandonne à midi. Ouais. Oh, ça va, il est 10h10. On est pas mal. Ouais, nouvelle levée d'investisseurs, exactement. Ouais. Alors, en tout cas, merci pour l'info parce que je vais y revenir dans les prochains jours sur ce truc. Ouais. Ben après, je ne veux pas faire du Trump à 50% tous les jours parce que vous n'en pourrez plus bientôt, puis moi aussi d'ailleurs. Let's go, on y va. On commence par la tuerie de Chevaline. Ça s'est très bien passé, Popo Bergeau, avec la journaliste du Monde. J'attends le papier avec impatience. On lira ça ensemble. Let's go. Pub. Bon, elle est pas longue la pub, n'inquiétez pas. Allez, let's go, tuerie de Chevaline. Bon, on attend la fin de la pub là. Eh, vous me dites, hein, dès que c'est la fin de la pub, vous dites fin de la pub. Comme ça, je vous dis. Comme ça, je vous montre le Parisien. Histoire incroyable. Hop. C'est bon ? Fin ? Ah, vous voyez ? Super court. Let's go. Alors, moi, je vous parle pas souvent d'affaires judiciaires, mais là, je trouve ce que je trouve intéressant, c'est comment. La justice ne lâche pas l'affaire. Voilà, même sur des vieilles affaires. Avec les services dits de cold case. Chevaline, la piste du tueur fou, se précise. Alors ça, c'est un vrai mystère judiciaire. 12 ans, vous vous rendez compte. Après la tuerie, le pôle cold case privilégie désormais l'hypothèse d'un militaire particulièrement entraîné aux techniques de tir sans mobile explicable. Voilà. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est de savoir, je trouve ça très rassurant, que la justice, les juges, les enquêteurs ne lâchent pas l'affaire après ces meurtres mystérieux et qu'ils continuent à chercher pour un jour traduire la coupable en justice. L'hypothèse d'un militaire des forces spéciales, le profil de l'auteur du quadruple meurtre perpétré en 2012 en Haute-Savoie, se précise à la suite d'une reconstitution en octobre et des observations d'un expert, le suspect aurait agi sans mobile. Alors, le Parisien nous rappelle les faits. Quadruple homicide, 5 septembre 2012, au bord d'une route forestière de Haute-Savoie. Hein, et la juge Sabine Kéris du pôle cold case de Nanterre en charge du dossier s'intéresse désormais à la piste d'un ancien militaire aguerri, formé des techniques de tir très particulières. En fait, dans la reconstitution qu'ils viennent de faire, ils se sont rendus compte que le rythme des tirs, la précision des tirs, plein de choses, ne pouvaient mener que sur des profils extrêmement particuliers. Dans un laps de temps compris entre 60 et 90 secondes, l'auteur des faits a tiré une série de 21 coups de feu avec un pistolet semi-automatique d'origine suisse, Luger P0629. Donc les victimes, un cycliste savoyard de passage sur cette route, Sylvain Mollier, touché à 5 reprises, une 6e balle a atteint son casque. Le gars a pris 5 balles. Piégés dans leur voiture en stationnement sur le parking du Martinet, 3 membres de la famille Al-Ili, des Britanniques d'origine irakienne, ont été abattus de 3 ou 4 balles. Chacun, a priori. Pour réaliser cet enchaînement, donc on parle de, vous vous rendez compte, 21 coups de feu en 60 ou 90 secondes, hein, même sur Valo avec une fantôme, tu ne fais pas ça. Le tueur aurait vidé un premier chargeur d'une capacité de 8 munitions, puis un deuxième, avant d'en recharger un troisième et de tirer encore à 5 reprises. Ensuite, le pistolet se serait enrayé. Ce problème technique expliquerait pourquoi la fille aînée des Al-Ili, âgée de 7 ans à l'époque, a été touchée d'une balle à l'épaule avant d'être frappée au crâne avec la crosse de l'arme. Elle a survécu à ses blessures. Quant à la petite, la fille cadette de 4 ans, cachée sous la jupe de sa maman, elle s'en est sortie miraculeusement indemne. Je pense que le tueur ne l'a pas vue. Et donc là, en octobre dernier, il y a une reconstitution qui a été organisée à nouveau.
Et ils ont pris, c'est incroyable, moi je trouve ça fou, ils ont pris trois tireurs de trois niveaux différents. Genre un tireur pas bon, un tireur moyen et un excellent tireur. Voilà. Mis en situation, chronométré, c'est la justice qui a fait ça, afin de se rendre compte du niveau du tireur en fait. C'est fou quand même. Voilà. Principale conclusion, ce passage à l'acte serait l'œuvre d'un auteur doté d'un sang-froid extrême et d'une grande habileté dans le maniement de l'arme. Ils se sont rendus compte que pour réussir à faire autant de tirs avec autant de précision, le mec, c'était un champion, quoi. Ouais. Pas exceptionnel, pas un tireur d'élite, mais un mec qui savait manier des armes, quoi. L'auteur de la tuerie de Chevaline, d'après un expert, aurait forcément été formé à des techniques réservées à une frange très restreinte de tireurs professionnels. Hein. Alors, ils disent pas un tueur à gage. Pourquoi ? Parce que l'arme qu'il a choisie était une arme qui pouvait dysfonctionner, qui pouvait s'enrayer assez facilement. Donc, c'est là où ils disent ça peut pas être un tueur professionnel. Il n'aurait pas choisi ses armes. Voilà. Ils se rendent compte aussi que personne ne pouvait prévoir que les victimes allaient passer par là, le cycliste et la famille. Et donc, on se dirige vers un tueur sans mobile. Hein. Voilà. Je vous lis les extraits les plus pertinents. Et l'enquête constate que l'auteur pourrait sans doute avoir achevé certains membres de la famille en glissant sa main à l'intérieur de leur voiture. Cette technique dite du tir fichant, ça je ne connais pas, porterait la signature d'une formation militaire très spécifique, en France par exemple. Cette technique dite du tir fichant, peut-être que vous connaissez, seuls les membres de la DGSE, renseignement extérieur, d'un service spécialisé de la DGSI et du 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine, le RPIMA, recevraient de manière non officielle un enseignement de ce type. Vous voyez ? Donc c'est très très peu de gens en France. C'est fou. Ouais. Au moins, on a vu le niveau du tireur, Samuel est tout de suite innocenté. Merci Neo Passenger. Mais, alors ça c'est la piste française, l'origine de l'arme invite plutôt, souligne cet expert, à regarder de l'autre côté des Alpes, de regarder en Suisse. Pourquoi ? Parce qu'en Suisse, toutes les formations militaires spéciales seraient formées à cet exercice du tir fichant. Qu'est-ce que c'est le tir fichant ? Moi j'ai toujours pas compris, on va aller voir, tir fichant. C'est les Suisses. Alors le tir fichant est un tir pour lequel le projectile va se ficher dans le sol à une distance très courte après la cible. Donc on tire comme ça ? Ou dans une pente en montagne ? Un tir fichant est un tir... Ah, vous n'avez pas. Pardon, je vous mets là. Un tir fichant est un tir pour lequel la balle doit obligatoirement se ficher dans le sol à une distance très courte et visible derrière l'animal tiré. Donc, c'est orienté vers le bas. Voilà. C'est orienté vers le bas. Ce que les chasseurs devraient normalement faire, voilà, pour éviter les accidents. En Suisse, toutes les forces militaires spéciales seraient formées à l'exercice du tir fichant. Donc là, il y a plein d'infos sur ce truc. Donc selon l'expert, l'auteur de ce quadruple homicide n'est pas seulement un tireur sportif de haut niveau, compte tenu du niveau de stress lié à la nature des faits, aux cris très probables des victimes, à l'augmentation du rythme cardiaque qui en découle, plus de la précision des tirs réalisés en mouvement, il ne peut s'agir que d'un homme très expérimenté qui aurait peut-être connu ce genre d'expérience dans le passé avec le même type d'arme. Invité à affiner le portrait robot du tueur, l'expert penche donc pour le profil d'un militaire suisse âgé d'une cinquantaine d'années qui aurait vrillé, voilà, puisqu'il n'y a pas de mobile. Bon, ça, c'est la dernière piste. Alors, c'est très, très flou, on n'en sait pas plus. Peut-être que c'est ça. Un homme, pourquoi pas une femme, bien sûr, Elinika. Non, bien sûr, non, mais un homme, je pense que l'expert ne se précisait pas sur le sexe du tireur. Mais, alors, peut-être que ce n'est pas la bonne piste. Mais moi, ce que je trouve très rassurant dans cette histoire, c'est 12 ans après les faits, la justice continue à bosser, à réfléchir, à chercher, à convoquer des experts, à faire des reconstitutions. Bon, je trouve ça plutôt rassurant. La justice française. Voilà. Et ce serait incroyable que, au terme de cette enquête... Attendez, il faut que je vous lise la fin. Pardon. Parce qu'il y a un truc hyper intéressant. Il y a une autre piste. Celle du campeur danois. Les gendarmes ont établi qu'un ressortissant danois séjournait la nuit des faits en juillet 2011 dans une autre affaire. Parce qu'en fait, il y a une autre affaire, regardez. Attendez, il faut que je vous raconte tout. Parce qu'en fait, on soupçonne ce tireur d'avoir œuvré dans une autre affaire. Voilà. Dans la mort de ce monsieur-là, Xavier Balligan, tué sur une aire d'autoroute de Meurthe-et-Moselle, dans la nuit du 18 au 19 juillet 2011. Le Belge revenait de vacances dans un camping ardéchois. Il était avec ses enfants, il s'est arrêté sur une aire d'autoroute pour aller faire pipi super vite. Il y a des enfants qui étaient restés dans la voiture, 4 et 7 ans, il dormait, et il s'est fait shooter par un tireur qui a tiré 5 balles. Voilà. La première balle à une quinzaine de mètres, la dernière à bout portant dans le visage. Voilà. Voilà. L'arme, un fusil en dotation de l'armée suisse. Ok ? Et donc là, la piste du campeur dite danois, c'est les gendarmes ont établi qu'un ressortissant danois séjournait la nuit des faits en juillet 2011 dans un camping situé à moins de 10 km de l'aire d'autoroute. Ok ? Or, le même touriste danois avait loué un emplacement dans le camping de Haute-Savoie à Saint-Jorioz, là où la famille Alili avait posé sa caravane à partir du 1er septembre 2012. Arrivé le 3, ce Danois était reparti le 5, le jour de la tuerie de Chevaline. Waouh ! Les frissons, quoi. Le mec était, avec à chaque fois une arme, a priori, de l'armée suisse, à chaque fois, le mec était là, quoi. Bon. Alors, pas de chance, gros hasard, incroyable. Donc voilà, il y a la piste du militaire suisse et il y a la piste du touriste danois. Voilà, comme dit Maxou, il est louche, lui. Ouais, incroyable. Moi, je trouve ça hyper rassurant que la justice, les enquêteurs continuent à bosser là-dessus. Quoi. Voilà. C'est fou, je voulais vous raconter ça ce matin. Tu trouves que c'est un Suisse danois, on ne sait pas. Hein. C'est intéressant, non ? Fourcade dans l'entraînement ? Oh ! Non, je ne valide pas. Merci. Et ça rigole. Vous êtes... Merci, c'est 824. Oh non. Tu connaissais pas l'affaire, gros loulou ? C'est dans le Parisien, ouais. C'est la nuit du Parisien. C'est pas... Et en même temps, hyper flippant que le tueur vive librement depuis 12 ans. Ouais, Antoine aussi, ouais. Alors, on enchaîne. Voilà, je vous tiendrai au courant de cette histoire, bien sûr, s'il y a du nouveau. Et on parle de Bayrou. Hein, c'est une boucherie. Oh, il y a Défécateur qui vient de pop dans le chat, notre ami Défécateur, qui dit c'est une boucherie chevaline. Il y a des commentaires dans le chat dont je vous épargne. Remerciez-moi pour ça. Je parlais pas d'Effecator. Une boucherie chevaline. Elle est magnifique. Donc, on parle de Bayrou maintenant. On parle de Bayrou. Ça va pour Bayrou. Hein, je vous résume l'actualité. Ça va pour Bayrou. A priori, il ne saute pas aujourd'hui, il ne dégage pas aujourd'hui. C'est dans quoi, Bayrou ? C'est dans... La Croix, page 11. Ok, let's go. Tu tweets tous les matins ? Je tweets tous les matins, j'essaye, Vinternol, sauf quand j'ai question pour un champion. Le soir aussi. Hier soir, j'avais une soirée de boulot. Après, le budget des jours plus tranquilles à Matignon. Hein, le gouvernement de François Bayrou ne devrait pas chuter. Certains vont être tristes dans le chat. Mercredi 5 février. Merci Anonyme 31 qui a supprimé le message de Fruits du Dragon. Les insultes ici pour quiconque, ça n'a aucun intérêt. Ça dégage direct. Attention parce que tu risques le ban. Le gouvernement de François Bayrou ne devrait pas chuter mercredi 5 février après la décision des socialistes de ne pas le censurer. En négociant avec le PS, le Premier ministre a choisi une stratégie payante qui lui offre un répit pour se projeter sur des réformes de moyen à long terme. Donc a priori, c'est de la poétique. Hein, tout est possible. A priori, pas de motion de censure contre Bayrou. Hein, les socialistes ne vont pas voter. Et a priori, même le RN ne va pas voter non plus. Lisons. On va peut-être réussir. Anticiper un ministre il y a quelques jours. Une semaine plus tard, après le recours à l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le budget, hein, il n'y a pas de majorité, donc il n'a pas trop le choix, Les deux motions de censure défendues par le reste de la gauche apparaissent comme une victoire pour François Bayrou. Convaincu depuis sa nomination à Matignon de pouvoir trouver un chemin inédit malgré l'absence de majorité à l'Assemblée, le Premier ministre a privilégié, vous savez, le dialogue avec les socialistes, contrairement à Barnier qui, lui, comptait plutôt sur la droite, voire avec le RN, avec une discussion avec le RN. Bon. Bayrou, lui, il a plutôt discuté avec les socialistes. C'est ça la grosse différence entre Bayrou et Barnier. Et puis ça a marché, a priori. Engagement et concession de part et d'autre, un compromis a été trouvé. Le gouvernement de Bayrou ne tombera pas afin de ne pas aggraver l'instabilité du pays. Hop. Oh, arrête de zoomer, Samuel Etienne. Un proche dit, il y a une méthode Bayrou qui semble avoir fonctionné. Laisser les gens s'exprimer, regrouper tout ça dans une solution, entretenir un flou malin. Afin de ne fermer aucune porte. Et le projet de Bayrou, c'est d'abord le budget, hein, le projet de loi de finances, et ensuite, on s'attaque à d'autres réformes. On en liste quelques-unes, ce que Bayrou appelle les 8 sommets de l'Himalaya, hein, en mode Kaizen, quoi. L'éducation nationale, la sécurité, la justice, l'outre-mer, la production industrielle, agriculturelle, le changement climatique, la santé, la question migratoire, sans oublier les retraites. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'il a une majorité qu'il ne veut pas faire des trucs. Après, on verra s'il arrive à faire passer ses réformes. Quoi. Le Premier ministre peut raisonnablement penser tenir jusqu'à l'été au moins. Très compliqué de rester au pouvoir quand tu n'as pas de majorité. Mais ce répit reste fragile, nous rappelle Lacroix ce matin. L'accord avec le PS est ponctuel, ça ne marche que pour le budget. Le parti dirigé par Olivier Faure est toujours dans l'opposition. Après les propos de François Bayrou sur le sentiment de submersion migratoire, on en a beaucoup parlé ici, le bureau national du PS a décidé de déposer la semaine prochaine une motion de censure par le biais de l'article 49 alinéa 2 de la Constitution. Aucune chance que cette motion de censure du PS pour les propos de Bayrou sur le sentiment de turbulence migratoire passe. Pourquoi la motion de censure du PS n'a aucune chance de passer sur les mots de submersion migratoire? Vous avez la réponse dans le chat, bien sûr. Pourquoi elle n'a aucune chance de passer? Parce que pour qu'elle puisse passer, elle doit être votée par le RN. Bravo N'Golo, qui suit. Eh oui, je doute que le RN ne vote pas pour dénoncer ce genre de propos. Vous êtes trop fort. Donc, voilà. Les infos, vous les avez. Bayrou ne saute pas a priori aujourd'hui. Et son espoir, c'est de durer le plus possible. Dory, merci. Avant que j'oublie. Ça va la ref. Merci Antoine Twitch. Merci beaucoup. Salut Broubou06. Comment ça va dans le bus? Ils se fichent de ça, ils avaient voté la censure Barnier qui est un criminel ERN, me dit Chazora. Cyril, Samuel, ERN a voté la motion de censure contre Barnier qui les mettait en cause directement. Ouais, t'es en train de me dire qu'ils sont complètement débiles. Vous êtes vraiment... comme vous y allez quand même. Comme vous y allez quand même. Je vous lis. J'ai lu que le PS allait déposer une motion de censure post-budget. Exactement, Pierre-Yves, c'est ce dont on vient de parler. Je vous lis. Polo, c'est génial parce que toi, tu commentes l'actualité. Mais avec 10 minutes de retard. C'est-à-dire, en fait, donc là, Polo, on est sur Bayrou, il est sur Chevaline, et pendant Chevaline, il était sur Musk. Donc, tu continues, t'es au top, mon Polo. Continue. Du coup, j'essaie d'analyser chaque message, et à un moment, je dis, attends, ça bug, quel rapport avec Bayrou? Mais il n'y en a pas, en fait.
Oui, je sais, Polo, mais je sais, tu réponds à quelqu'un du chat. Oui. C'est, en fait, Polo, c'est devenu le co-animateur de cette matinale. Il faut qu'on parle, Polo, faut qu'on parle. Samuel, mes potes m'ont fait la blague de m'inscrire au RN. Je viens de recevoir ma carte de membre, j'ai envie de mourir, me dit gros loulou. Je suis sûr que Polo va avoir un truc à nous dire là-dessus. Enfin, dans 10 minutes. Pierre-Yves, vérifie Sam, je crois que tu as ton délai de valo. Non, tu viens d'écrire ce message il y a 10 secondes. Non, c'est Polo qui a mis un petit délai. C'est le même Polo qu'hier, c'est le même. Il essaie de comprendre comment il faut s'exprimer ici. Mais on va y arriver. Très drôle comme blague. Les trolls n'ont qu'un besoin, me dit Dapuki. Attirer l'attention, détourner le débat, là il gagne, il va donc continuer. Bah non, parce qu'à un moment, au moment où il sera identifié comme troller, parce qu'ici on a tendance à laisser une deuxième chance aux gens, à un moment on va en parler avec les modérateurs, alors là je pense qu'ils vont pas tarder à m'en parler, et à un moment où Polo, notre ami Polo, sera identifié officiellement comme un troller, eh bien vous savez ce qui va se passer. Là par exemple, Polo est sur la sécurité dans les quartiers, là, vous voyez ? C'est comme un stream parallèle. C'est déjà le cas, me disent les modérateurs. C'est comme un stream parallèle. Là, il est sur la sécurité dans les quartiers. C'est comme il y a mon stream et il y a un autre truc, une autre dimension. C'est Polo. Il vit un autre live, lui. Moi, pour l'instant, je me régale. Pour l'instant, je me régale de ça. Merci. À French Fry. Et puis quand j'arrêterai de me régaler, ben, vous savez très bien ce qui se passera. Alors, voilà pour Bayrou. J'enchaîne. Chut, on va sur. C'est maintenant le début de la page Trump ? Non, l'Ukraine. Alors ça, c'est super important. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier la guerre en Ukraine. C'est la une de la croix. Ouais. Let's go. Seuls les fous n'ont pas peur. Voilà. Ukraine. Reportage sur le front ukrainien dans les tranchées auprès de soldats usés par 3 ans de guerre. Parfois, un bon édito, éditorial, un article où un journaliste donne son avis, parfois il a en plus l'avantage de résumer une situation. On en est où de la guerre en Ukraine ? En quelques lignes, eh bien, la Croix nous résume ça. Alors ce n'est qu'un résumé, ça n'est pas totalement complet. Mais ça a déjà cet intérêt. Éditorial de Jean-Christophe Ploquin. Bientôt 3 ans de guerre en Ukraine, et les combats se poursuivent dans une routine terriblement meurtrière. Bientôt 3 ans de guerre, première info. Laurent Larcher en fait le récit, de retour du front. Il raconte la vie dans les tranchées face aux assauts des troupes russes, l'esprit de sacrifice qui unit des soldats aux profils les plus divers, parfois sexagénaires, parfois tout juste mobilisables, et formés en quelques semaines. L'Ukraine résiste, mais cède du terrain, vous le savez, l'armée ukrainienne recule. La nation en armes des débuts semble épuisée avec une partie de sa population en exil. Ces heures sombres conduisent à espérer une fin rapide de la guerre, mais comment y parvenir ? La perspective de négociations rondement menées par Donald Trump, redevenu président des États-Unis, s'est évanouie depuis son investiture du 20 janvier. En campagne électorale, il affirmait pouvoir résoudre la question en 24 heures. Voilà. Aujourd'hui, on n'attend pas de proposition de son administration avant 4 ou 6 mois. À l'époque, je m'étais moqué de cette promesse de Trump. On m'avait dit « Ouais, faut pas se moquer, il est très fort, il va résoudre la guerre en 24 heures. » Bon, bah maintenant, finalement, on attend des propositions d'ici 4 ou 6 mois. Le principal problème ne se situe pas à Kiev, mais à Moscou, où Poutine paraît moins que jamais disposé à faire des concessions. Le maître du Kremlin reste animé par l'objectif de restaurer la Russie comme un empire d'envergure mondiale. La guerre qu'il a déclenchée ne vise pas seulement à conquérir les territoires, mais à rétablir l'emprise de Moscou sur un pays à nouveau vassalisé. Jugeant que le temps joue en sa faveur, il augmente sans cesse la pression sur la ligne de front et sur les civils. Face à lui, le choix des Ukrainiens est toujours de résister. Pour y parvenir, il ne faut plus de soutien financier, politique, militaire. Il leur faut plus de soutien. Alors que Donald Trump se montre réticent, la France et les autres pays européens qui vivent, eux, sur le même continent, ça ne vous a pas échappé, ont un devoir moral à renforcer leur aide. C'est un choix lucide aussi. Une des conditions de notre sécurité, c'est que Vladimir Poutine soit stoppé
au plus vite. Voilà pour ce résumé de la situation. Et vous avez, si vous avez un peu le temps et un peu de sous, n'hésitez pas à acheter la croix, 2 pages d'un reportage de l'envoyé spécial, qui est donc Laurent Larcher en Ukraine, auprès de l'armée ukrainienne. Je voulais juste le résumer. Près de 3 ans après le début de l'offensive russe en Ukraine, les troupes de Kiev exténuées tentent de contenir les assauts des forces russes plus nombreuses. Notre reporter s'est rendu sur la ligne de front dans les zones de Prokhorovsk et de Kramatorsk. Il décrit une armée qui se bat avec l'énergie du désespoir, sans perspective de victoire face au rouleau compresseur russe. Voilà. Allez, je vous lis. Enfin, je lis les messages intéressants. Il y en a beaucoup. Merci Knaki. C'est bon les Knaki. C'est ouf, il y a 3 discussions parallèles. Ouais, je vois, c'est très intéressant. Merci beaucoup Goodman Official. Ça, ton message me fait très plaisir. Je pensais que ça avait bug. Non, non, ça, c'est pas le chat qui a bug, c'est les... C'est 2-3 utilisateurs du chat. Mais vous inquiétez pas, vous êtes 3730 là, je vais pas donner de l'attention aux 3 qui déconnent dans le chat. Coucou Samuel, mon grand-père qui a 100 ans, putain GG, Nia, est un grand fan de Questions pour un champion et quand je lui dis que je regarde sur Twitch, il a rien compris. Ne lui montre pas, ne lui montre pas. Ne lui montre pas ce que je fais sur Twitch, ne lui montre pas ce que je fais sur Valo, le pauvre. Préserve-le de tout ça. Ça lui casserait le mythe, exactement. Il faut qu'il reste sur une bonne image, exactement, Toms. Ok, bon, pour l'Ukraine, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, c'est dans la croix, ce matin, 1, page 2, page 3. Grosse page Trump qui commence là, il y a des articles dans Le Monde, dans Les Échos, dans Libération, sur plein de sujets, sur le début de la présidence Trump. On va commencer par la guerre commerciale, puisqu'on a beaucoup parlé ces derniers jours. Hein, et finalement, Trump sera en train de rétro-pédaler sur cette question. C'est la une du Monde, hein, rien de moins, dans sa dernière édition. Pop, on va en une. Elle est ici. L'adoption, c'est où ça ? Ici. Mexique, Canada. Volte-face de Trump sur les droits de douane. Visiblement sensible à un début de crack à Wall Street, le président américain a décidé lundi de suspendre pour au moins un mois l'augmentation de 25% des tarifs douaniers qu'il avait annoncé pendant le week-end contre le Mexique et le Canada. Entre-temps, il faut dire que la présidente mexicaine et le premier ministre canadien avaient annoncé des mesures destinées à amadouer l'occupant de la Maison-Blanche. Voilà. Quelques minutes après l'entrée en vigueur des droits de douane décrétés par Donald Trump à son encontre, la Chine, elle, a annoncé l'imposition de droits de 15% sur le charbon et le gaz naturel liquéfié en provenance des États-Unis. Étrange, la Chine qui réagit. Quelle surprise! Maëlys, très en colère depuis tout à l'heure, c'est Polo mais en version fille. Ça parle de l'Ukraine, de Trump, de Bayrou. Pendant ce temps, personne ne se préoccupe du pouvoir d'achat, des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté, des bas salaires, de l'hôpital public en crise. Tout ce monde médiatique est complètement pourri et complice. Lire cette propagande est une honte. La France meurt. Comme les viewers sont en train de te le faire reconnaître, merci à vous. Pas plus tard qu'hier, on a passé un long moment sur la crise du logement en France et le fait que les plus précarisés les familles monoparentales, les femmes seules avec les enfants, les étudiants, etc., sont confrontés à une crise de logement qui est insupportable. Voilà, des sujets dont on parle hyper régulièrement. Mais pour ça, il faut venir souvent. Voilà, il ne faut pas s'arrêter sur une partie du truc. Et il faut pas, et surtout, il faut un peu ouvrir son chakra, sinon son esprit. Maëlys, ce n'est pas ton premier message un peu étrange ce matin. Tu es là depuis longtemps, toi ? Non, je pense que ton historique doit être assez faible. 224 messages, quand même ? C'est quelqu'un qui t'a piqué ton compte ? C'est quelqu'un qui t'a... C'est ton petit frère qui t'a piqué ton compte ? Mais oui. Je me fais un petit plaisir. Hein. Je me fais un petit historique. Quelqu'un t'a piqué ton compte ? C'est étrange. Quelqu'un a piqué le compte de Maëlys ? Je suis persuadé que ce n'est pas la même personne. Incroyable. C'est fou, ça. Incroyable. Un mystère. Très étrange. Rendez-nous Maëlys, l'autre, la première Maëlys. Très étrange. Ouais. Étrange. Hop, bon. Donc, revenons à nos affaires. Trump. Donc, la volte-face sur les droits de douane. Page 13, let's go. Les limites du bluff de Trump. Tarifs douaniers, les limites du bluff de Trump, la hausse de 25% annoncée est suspendue pour un mois à la suite d'accords avec le Mexique et le Canada. Donc ça, on a donné l'actu. Bon, c'est vrai qu'il y a un début de crack à Wall Street, les marchés ont un peu paniqué. Est-ce que c'est un lien ? Le Mexique a annoncé des mesures déjà pour renforcer la frontière nord, pour empêcher le trafic de drogue du Mexique vers les États-Unis, notamment le fentanyl. Voilà, Trump se félicite de cette proposition. Voilà. Le Canada, ensuite, entretient avec Justin Trudeau et Trump, voilà, et annonce également de la suspension des mesures de rétorsion. Salut, Laure, force à toi, mon ami. Laure est à l'hôpital. Cette technique de menace et de chantage a interloqué les observateurs sur la méthode Trump. Ce bluff, hein, est-ce que c'était du bluff ? Merci Mystérieuse pour le petit mot alors. Est-ce que c'était du bluff en mode, en fait la guerre commerciale, qui à un moment a interloqué les marchés et tous les gens qui pensent qu'une guerre commerciale ne fait pas de gagnant en fait, que tout le monde y perd, est-ce que c'était du bluff ? C'est ce que semble dire le Monde ce matin. Ce bluff conduit peut-être à des concessions immédiates, mais il crée des incertitudes massives, une instabilité permanente pour les investisseurs et les partenaires politiques des États-Unis. Pourquoi le président a-t-il imposé des droits auxquels bien peu croyaient, alors que selon le Wall Street Journal, les équipes américaines et mexicaines négociaient encore vendredi à la veille du décret présidentiel ? Pourquoi fait-il marche arrière ? Je pense pas que c'est du bluff, mais un moyen de mener une négociation, dit Sana. C'est ce qu'on appelle le bluff. Pourquoi faire marche arrière si rapidement au risque de rendre tout futur bluff inopérant ? Ce scénario était-il prémédité ou s'agit-il d'un chaos digne du premier mandat de Trump ? Plusieurs explications données par Le Monde. Salut, celle douce. D'abord, la chute de Wall Street, qui est un baromètre auquel Trump prête attention, était sérieuse. Les marchés n'étaient pas très loin du point de rupture quand l'annonce de l'accord provisoire avec le Mexique les a fait rebondir. Donc, il y a peut-être des inquiétudes boursières. Trump est un homme d'affaires, peut-être que ça l'a un peu embêté. Sur le fond, l'imposition de droits de douane au Mexique et au Canada, les deux premiers partenaires commerciaux des États-Unis devant la Chine, menaçaient d'augmenter le coût de certains produits, sirop d'érable, guacamole, mais surtout de désorganiser complètement les chaînes de production de l'industrie automobile. et de renchérir d'environ 3 000 $ le coût d'un véhicule neuf sur le territoire américain. La bagnole, c'est important aux États-Unis. Stratégiquement, l'attaque contre les propres alliés des États-Unis est jugée absurde, comme on attestait les commentaires de Larry Summers, ancien secrétaire au Trésor de Bill Clinton. Les tarifs douaniers de Trump constituent une stratégie d'intimidation. L'intimidation n'est pas une stratégie gagnante dans le temps, que ce soit sur la scène nationale ou internationale. Pour le monde, mais ça n'est qu'une analyse. Moi, je dis, ouais, qui sommes-nous pour juger de la politique économique de Trump? Moi, je ne suis pas économiste. Peut-être que ces mesures douanières, ces mesures de guerre commerciale, à supposer qu'elles soient maintenues, parce que du coup, là, elles sont suspendues, peut-être que ça a apporté leurs fruits. Moi, je n'en sais rien. Mais l'avis du monde, c'est, en réalité, il s'agit d'un bluff à la Pyrrhus. Plus personne à l'avenir n'aura confiance dans la parole des États-Unis, Donald Trump ne respectant même pas le traité de libre-échange avec le Canada et le Mexique qu'il avait lui-même négocié lors de son premier mandat. Bon, ça, c'est l'analyse du monde. On verra bien. Les derniers propos de Trump sur Gaza sont terrifiants. C'est le chaos annoncé au Moyen-Orient s'il passe à l'action. Je vais faire une recherche là-dessus. Vous êtes plusieurs à en parler. Les journaux n'en parlent pas ce matin parce que je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de le faire. Mais on va faire ça. On va aller voir cet article parce que vous m'en parlez beaucoup. On va chercher ça. En fait, c'est sûrement sur les sites internet des journaux, mais pas encore dans le print que j'ai téléchargé ce matin. Trump. Prochain rien. Gaza, tout simplement. Il veut envahir Gaza et en faire la Côte d'Azur du Moyen-Orient. Non, non. Non, c'est impossible. Il n'a pas pu déclarer qu'il voulait envahir Gaza et en faire la Côte d'Azur du Moyen-Orient. Impossible. Alors, allons voir. À l'occasion de la visite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui est reçu aux États-Unis en ce moment, le président américain a annoncé mardi soir sa volonté d'exiler les habitants du territoire palestinien. Oula. Oula. C'est-à-dire. Donald Trump a déclaré mardi soir vouloir prendre le contrôle à long terme de la bande de Gaza. Afin de déloger les plus de 2 millions de Palestiniens qui vivent dans l'enclave et le transformer en Côte d'Azur du Moyen-Orient. Je suis pas en vue de presse, je suis pas en live, je dors, je rêve. C'est un... Quelqu'un peut me pincer ? Présent aux côtés du président américain à la Maison-Blanche, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, premier dirigeant étranger reçu par Trump depuis son investiture, donc déjà c'est un signe, s'est réjoui de cette proposition qui pourrait changer l'histoire. Tu m'étonnes qu'il se réjouit. Le mec propose de virer tous les Palestiniens. Waouh ! Les réactions aux propos du président américain se multiplient. L'Arabie saoudite a notamment rappelé sa volonté de créer un État palestinien indépendant. Tandis que le Hamas a dénoncé un plan raciste visant à éradiquer la cause palestinienne. La Turquie est en colère, l'Arabie saoudite est en colère. Bon, les Palestiniens, n'en parlons pas. Waouh ! L'OLP, bien sûr, dénonce. La Chine dénonce. Les démocrates dénoncent. Qu'est-ce qu'il entend par Attendez. C'est quoi ces propos exacts? Alors, les États-Unis les propos exacts de Trump. Les États-Unis vont prendre le contrôle de la bande de Gaza pour en être propriétaire à long terme. Et ce n'est pas une décision prise à la légère. L'ancien magnat de l'immobilier, s'il n'est plus à se rêver ainsi en bâtisseur de la Côte d'Azur du Moyen-Orient. C'est une citation, hein. Après avoir réaffirmé à plusieurs reprises son intention de déloger définitivement les plus de 2 millions de Palestiniens résidant dans l'enclave, sans y exclure d'y engager pour cela les forces militaires américaines. Waouh! Waouh! L'extrême droite israélienne jubile. Tu m'étonnes. Les mecs, ils disent « Donald, ça ressemble au début d'une amitié magnifique ». Benjamin Netanyahu, il voit un possible tournant de l'histoire. Tu m'étonnes. Ouais. Incroyable. Ok. Bon. Bon, bah écoutez, bon, bah merci d'avoir attiré mon attention là-dessus. Les journaux en parleront beaucoup demain, ça c'est sûr. Là, on a des articles sur Internet que les journaux ont postés, bien sûr, pour être le plus réactif possible. Demain, ce sera dans le print, dans la version papier qu'on lira demain matin. Donc, on y reviendra, bien sûr, demain, puisqu'il y aura revue de presse demain. OK. C'est fou. Voilà. Donc, ce matin, on parlait de la guerre commerciale, bluff, pas bluff. On a parlé de ce projet-là. On verra ça demain, ce qu'il en est. Et puis, c'est pas tout. On va parler aussi de ce matin... plusieurs journaux en parlent, de sa volonté de démanteler l'État fédéral, notamment pour faire des économies. Voilà, ça c'est le projet, et c'est la méthode qui pose question, je vous mets Libération. C'est tombé cette nuit, d'accord. Elon Musk, le liquidateur, l'homme de main de Trump sans aucun mandat démocratique, démembre actuellement les agences gouvernementales américaines d'un coup de force administratif aux allures de coup d'État. Elon Musk, la casse américaine, sans mandat légal, puisqu'il n'a pas été élu, il n'a pas été investi, il n'est pas validé par le Congrès, mais doté d'un pouvoir inouï au sein du département de l'efficacité gouvernementale, Musk, appuyé par une armada de très jeunes lieutenants, on parle de jeunes ingénieurs qui ont entre 19 et 24 ans, c'est une info que j'ai trouvée ce matin, s'est lancé dans une transformation radicale de l'État américain prenant de vitesse les contre-pouvoirs. Alors, je ne vais pas vous lire tout le dossier de Libé parce qu'il est très important, mais vous verrez, il y a plein d'articles sur ça ce matin, j'essaie d'aller à l'essentiel. S'il a investi dans la campagne victorieuse de Trump plus de 230 millions de dollars, quand même, ingénieur à 19 ans. Ah bah il doit avoir un petit peu d'avance. Moi aussi, ça m'a surpris, mais je n'ai pas toutes les infos. Voilà, à vérifier. 230 millions de dollars. Bon, il a un petit retour sur investissement, Trump, peut-être. Elon Musk n'a été élu par personne et n'endosse au sein de l'exécutif aucune fonction formelle qui le soumettrait à une confirmation par le Sénat ou au moins au code éthique encadrant les innombrables conflits d'intérêts charriés par ses affaires et les contrats à milliards de ses entreprises avec l'État. C'est ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs, etc. Sans compter l'intrication de ses intérêts à ceux de puissances étrangères comme la Chine où sont produits la moitié des véhicules Tesla. Formé à la demande de Musk par un décret trumpien, le prétendu département de l'efficacité gouvernementale, DOJ, n'a de ministère que le nom et pour seule mission légalement définie l'optimisation des interfaces logicielles du gouvernement. Voilà. Musk et ses troupes, ces derniers jours, c'est ça l'actu, ont investi slash noyauté le bureau des ressources humaines de l'État fédéral, l'OPM, pris le contrôle de l'administration de ses services généraux, GSA, et commencé à infiltrer une demi-douzaine d'agences gouvernementales. Après l'USAID, on va en parler, le Washington Post révélait lundi qu'un semblable processus de casse de l'intérieur avait déjà été engagé au ministère de l'Éducation, que Trump avait promis d'abolir au cours de sa campagne, ce que la Constitution lui interdit normalement, sans passer par un vote préalable au Congrès. Depuis vendredi, surtout, l'armada du Doge a fini, à force d'insistance, par pénétrer le système de paiement du Trésor américain, le principal carnet de chèques des États-Unis, via lequel sont déboursés chaque année quelques 6 000 milliards de dollars de paiements de fonds fédéraux, salaires, subventions, retraites, contrats de prestataires. Outre qu'elle permet virtuellement à Musk d'ouvrir et de fermer à sa guise des robinets de l'argent public, cette conquête lui ouvre une base de données où figurent les données relatives à des centaines de millions de contribuables américains d'organisations d'entreprises. On parle de Musk, hein, qui n'a pas de fonction élue, quoi, qui n'est pas un politique élu ou investi, quoi. On parle de ses équipes, qui sont des gens qui ne sont pas habilités par, par l'État américain ou par la... Voilà. Par le Congrès. Et ces gens ont accès à toutes les données quoi, d'un pays. Voilà. Cela au nom de l'ambition folle, clamée à longueur de poste sur X, d'alléger en un an le déficit de 1 000 milliards de dollars de dépenses annuelles qu'il aura trouvé superflu. Ça, c'est l'objectif. Donc là, le dossier est très complet. Après, on va aller voir des articles qui, je trouve, que Libé, ils sont très, très, très en colère ce matin, mais des articles qui, je trouve, expliquent plus clairement ce qui est en train de se passer. Les informations sont un peu disséminées sur les deux pages. Ce qu'on va faire tout de suite. Voilà. Ce qu'on va faire tout de suite. Donc ça, c'est le dossier dans Libé. Mais je pense que pour bien comprendre l'affaire, il faut lire plusieurs dossiers ce matin. Là, on va aller page 6. Non. Si. Page 6 des Échos. Dont c'est aussi la une ce matin. Regardez. Il n'y a pas que Libé qui en parle. Trump et Musk, c'est le principal titre, partent à l'assaut. Tu vois, il y a Alastair qui dit « Après, bon, Libération 1 ». Bon, le problème, mon cher Alastair, c'est que tous les journaux disent la même chose ce matin. Donc maintenant, tu peux dire « Après, bon, les Échos 1 ». Puis après, tu pourras dire « Après, bon, le Figaro 1 ». Parce qu'en fait, tous les journaux disent exactement la même chose ce matin. Voilà. Je te laisse écrire tout ça. Prends tes petits doigts. Trump et Musk partent à l'assaut de l'administration américaine. Les dépenses d'aide à l'étranger ont été gelées pour 3 mois. Le personnel qui les gère mis à pied. Le patron de Tesla et son département de l'efficacité gouvernementale s'y misent dans les agences fédérales et les ministères sans aucun garde-fou, à part l'hôte de la Maison-Blanche lui-même. Voilà. Après, bon, les Échos 1. Page 6-7, let's go. Voilà. Donc les Échos et le Figaro disent exactement la même chose que Libération ce matin. Le coupeur de coups Musk veut supprimer l'agence indépendante USAID, financée par le Congrès. Ses dépenses, 44 milliards de dollars par an, ont été gelées pour 3 mois. Son personnel mis à pied, bam voilà. Et le secrétaire d'État en a pris la direction par intérim. Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Pour Trump, le nouveau président américain Elon Musk, son auxiliaire coupeur de coups fédéraux, l'agence qui distribue l'aide américaine à l'étranger, est bonne à jeter. Qu'est-ce que dit Trump ? L'USAID est dirigée par un tas de radicaux dérangés. Ça, c'est Trump qui dit ça. Musk, il en a rajouté un petit peu, lui dit « L'USAID est une organisation criminelle. Les menaces des deux hommes ont été en partie mises à exécution. L'agence indépendante, l'USAID, qui gère 44 milliards de dollars de crédits fédéraux et 10 000 employés à travers le monde, a déjà vu ses financements gelés le 20 janvier par décret, en attendant les conclusions d'un audit. Ça a créé une belle pagaille. Lundi, l'USAID a été véritablement débranché. Et les 10 000 employés à travers le monde ont reçu un courriel informant que le siège de l'USAID allait fermer pour la journée, qu'ils devaient travailler depuis leur domicile en attendant des instructions ultérieures. Voilà. Le site web a été transféré au département d'État. Le compte X, Twitter, a été fermé. Ça tombe bien, c'est Musk qui dirige X. Waouh. Alors la Maison-Blanche a évidemment motivé sa décision avec un communiqué intitulé « Gaspillage et abus à l'USAID, arguant du financement d'une comédie musicale ». Diversité et inclusion en Irlande, de repas pour les combattants d'Al-Qaïda en Syrie, de contraceptifs dans les pays en développement, entre autres. Voilà. L'équipe Trump nous explique les Échos ce matin. Ouais, mais c'est les Échos en même temps. Veut se débarrasser d'une agence trop indépendante à son goût. Créée par le président Kennedy en 1961, l'USAID a pris son autonomie par rapport au département d'État en 1998. C'est un vote du Congrès. Les parlementaires, blablabla, 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 ça dépense, ça représente 0,4% des dépenses fédérales. Normalement, c'est une loi du Congrès qui devrait faire ce qui est en train de se passer, mais Trump dit non, il n'y a pas besoin de loi. Pas quand il est question de fraude, répond-il au journaliste. Nous ferons un rapport, a-t-il promis. La façon dont Elon Musk a pris le contrôle de l'USAID a en tout cas des airs de putsch. Plus d'une centaine d'employés ont été mis en congé administratif, y compris des personnes de sécurité. Un responsable des RH a dit avoir reçu l'instruction de violer la procédure en licenciant un groupe d'employés immédiatement. Elon Musk, qui s'enorgueillit d'avoir licencié 80% du personnel de Twitter, en commençant par la modération, il suffit de voir ce qu'est devenu Twitter, est également fier de faire le ménage dans l'USAID car il n'a pas trouvé un ver dans le fruit, mais une pelote de ver. L'USAID, ce n'est pas un ver dans le fruit, le truc est une pelote de ver. L'entrepreneur a appliqué sa méthode commando, rodée dans ses entreprises, de Tesla à SpaceX, pour passer au peigne fin l'activité de l'agence. La semaine dernière, de jeunes gens du Doge, là le truc de Musk, se sont présentés au siège en demandant l'accès au système d'information et à toutes les données. Ils voulaient notamment savoir qui avait travaillé sur quel projet. Un média qui s'appelle Wired a identifié dans l'équipe de Musk 6 ingénieurs à la tête bien faite, âgé de 19 à 24 ans, le chiffre qui revient, je ne sais pas ce que ça veut dire, ingénieur de 19 ans, peut-être que ingénieur aux États-Unis c'est autre chose, je ne sais pas trop. Dont au moins un bénévole et au moins un étudiant. Ah bah voilà, ça y est, on comprend, le mec de 19 ans, il est étudiant. J'adore cette histoire. Attends, mais qu'est-ce que tu as besoin d'inventer des films et des séries? Il suffit de se pencher sur l'actualité aux États-Unis, quoi. Wired, on dit. Merci beaucoup, joli. Voilà. Incroyable. Donc, c'est... Le truc, t'as vu que t'es un étudiant qui arrive avec son PC portable et puis il dit « Bon alors les gars, je viens pour tout fermer. Hein. » C'est génial, mais quel bonheur. Samedi, ces jeunes inquisiteurs se sont heurtés à un refus du responsable de la sécurité lorsqu'ils ont demandé l'accès à une pièce hautement sécurisée. Mais mettez-moi ça dans un film, bordel. Voilà. Du coup, les jeunes ont appelé Musk qui a fait intervenir la police judiciaire. Face à ces méthodes brutales, les démocrates qui semblaient tétanisés ont commencé à se mobiliser. Un petit groupe de parlementaires s'est présenté lundi au siège de l'USAID où il était refoulé. Tout se passe bien au States en ce moment. D'autres ont menacé de ralentir la confirmation sénatoriale des membres du gouvernement, voire de boycotter la négociation du budget. Pas de quoi effaroucher Elon Musk, le coupeur de coups. Ouais. Incroyable. Incroyable. Donc là, il y a un autre éclairage sur les méthodes actuellement de Musk sur l'administration. Toujours dans les échos. Ah ouais, mais en même temps, c'est les échos. Hein. Aidé d'une quarantaine de personnes au statut incertain et une bande de jeunes nerds à peine sortis du lycée. Ça va arrêter, là, ces critiques sur la jeunesse, là. Elon Musk a reproduit à Washington les méthodes qu'il a employées avec Tesla et pour transformer Twitter en X. Les équipes de Musk se sont installées dans les bureaux de l'Office of Personnel Management, OPM, l'équivalent des RH du gouvernement, dans les heures qui ont suivi l'investiture de Trump. Ah, ils n'ont pas tardé, hein. Ils ont installé des lits de camp dans une salle de conférence, pris d'assaut les serveurs de l'agence, étape préalable essentielle pour envoyer l'offre de départ volontaire, le fameux départ volontaire, à l'ensemble des agents fédéraux hors de tout cadre réglementaire. Les syndicats ont porté plainte, mais le mal est déjà fait. Même si le procès devrait se conclure en leur faveur, Musk est en train de réussir son coup. L'offre de départ volontaire expire jeudi. Pour le moment, environ 20 000 agents auraient accepté de démissionner, soit 1% des agents fédéraux, loin de l'objectif qui était de 5 à 10%. La prise de contrôle de l'OPM, donc les RH, n'était qu'une mise en jambe. Le Doge ensuite s'est déployé dans de multiples agences avec un intérêt particulier pour tout ce qui a trait aux paiements effectués par le gouvernement fédéral. Musk et ses sbires, donc les jeunes gens dont on parle là, avaient notamment identifié le système informatique du Trésor. Bon, en gros, c'est le mec qui prend le contrôle de Bercy, quoi. Non, mais imaginez en France, les gars. Il y a un nouveau président, une nouvelle présidente. Voilà. Il nomme le gars ou la présidente. Il nomme un gars qui n'est pas élu, qui n'est pas validé par le Congrès, par l'Assemblée ou c'est là. Je sais pas, on a un équivalent de Musk en France ou pas? Bon, un mec qui est à la tête d'un gros groupe privé, quoi. Non, Patapi, il est mort. Et donc, le gars, il dit, bon, bah, moi, je vais faire des économies. Voilà. Et le mec, il débarque à Bercy, au ministère des Finances, avec, je ne sais pas, 5, 10 gars un peu calés en informatique, avec leur petit PC à eux, là. Et les mecs, ils se branchent sur les serveurs du ministère des Finances, quoi. En ayant accès à toutes les données, donc vos impôts, la taxe d'hab, enfin, toute votre vie, quoi. Et puis, ils commencent à licencier des gens et tout, hors de tout cadre légal. Vous imaginez ça, quoi ? C'est ça qui se passe aux States. Voilà. C'est génial, quand même, ça. Enfin, génial, je ne sais pas si c'est le mot, d'ailleurs. C'est surréaliste. Musk et ses sbires avaient notamment identifié le système informatique du Trésor public qui gère plus de 5 000 milliards de dollars de paiements réalisés par le gouvernement américain chaque année. Retraite, salaire, subvention, intérêt de la dette. Incroyable. Et l'objectif, c'est que ce fameux Doge de Musk soit présent dans toutes les agences fédérales. Let's go ! Une fois en place, ils interrogent les agents fédéraux sur leurs fonctions. Toi, t'es qui ? Tu fais quoi ? Toi. Okay. Leur présence au bureau. Voilà. C'est pourquoi t'es là ? C'est quoi ton bureau ? Okay. Et leur demande des noms de collègues à licencier. J'adore. Merci, Lady Madness. Merci, Gaëtan. Voilà. Ils travaillent déjà à la suppression du ministère de l'Éducation. Pourquoi un ministère de l'Éducation nationale, en vrai ? À quoi ça sert, hein ? Alors même que la ministre nommée par Trump n'a pas été encore confirmée par le Sénat. Voilà. Et ce n'est probablement que le début. Elon Musk n'a pas perdu de vue sa mission, réduire le déficit budgétaire par tous les moyens. Voilà. Il a bien compris que passer par le Congrès était le meilleur moyen de maintenir le statu quo. Alors pourquoi s'embarrasser ? Le Doge prétend déjà faire économiser 1 milliard de dollars par jour au gouvernement, sans donner vraiment des précisions. Voilà. Notamment avec des baux de location non renouvelés. Bon, il se débarrasse de location de bâtiments pour les administrations. Bah, évidemment, s'il ferme les administrations, il n'a plus besoin de logement. Des programmes d'aide internationale suspendus et des contrats de consulting abandonnés. Un bon début, mais ce nombre doit atteindre plus de 3 milliards de dollars par jour, a précisé le Doge. Voilà. Maintenant qu'il a assuré son contrôle sur les systèmes critiques de l'administration, jusqu'où Musk pourra-t-il aller ? Seul Donald Trump le sait, ou pas d'ailleurs, tant que leur bromance, c'est beau ça, c'est beau l'histoire d'amitié, tiens, rien ni personne ne semble en mesure d'arrêter Elon Musk. Voilà. Ce truc se passerait en France, je pense que tout le monde serait dans la rue, quoi. Voilà. Voilà. Ça, c'est les échos, hein. C'est pas Libé, hein. C'est pas l'humain, hein. Voilà. Et attendez, dans le Figaro, vous pourriez trouver le même papier. Et puis, qui en parle encore ? C'est Le Monde. Le Monde en parle également. C'est page... Il y a un édito dans Le Monde. Page 2 aussi. Ils en parlent en une du Monde aussi. Hop, regardez. Comme quoi, ça intéresse un peu comme cette histoire. Voilà. Elon Musk mène l'offensive contre l'État fédéral. Voilà. Page 2, le papier. Musk conduit l'offensive contre l'État fédéral. Vous avez les mêmes infos. Vous avez un édito. Alors, l'édito, souvent dans les journaux, il est au début. Dans Le Monde, il est à la fin. Il est juste avant les pages, les cahiers qui est à la fin. Donc je vais le trouver ici. Page 29. La stratégie du chaos de Donald Trump. Ah, c'est sur le commerce. Ben, ça, on a déjà parlé tout à l'heure. C'est pas sur Musk. Voilà. Ben, je vous lis un petit peu parce que j'étais très bavard. Je vous remets la une du Monde. Hop. Tchou, tchou, tchou. Et après, on enchaîne avec... On est sur un train d'enfer ce matin, c'est incroyable. Merci Lolo de Bixel, comment vas-tu ? 40 mois, c'est juste une dinguerie. 40 mois d'abonnement. Merci de ton soutien. Et après, je vous parlerai... Oh, on va parler de sport un petit peu, on va se détendre un petit peu. Merci Chachoun pour le deuxième mois. Alors... Lisandre, moi je trouve que c'est bien, Sam. Le pays chaque année doit remonter les plafonds de dette. Il faut que quelqu'un tape dans la fourmilière. Personne ne dit ici qu'il ne faut pas faire des économies budgétaires. En France, on a le même souci d'ailleurs. Ce qui est dénoncé par les articles qu'on vient de lire, c'est la méthode qui n'est pas très très démocratique. Non, qui n'est pas démocratique en fait. C'est-à-dire, dans une démocratie, tu ne peux pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Tu peux pas fermer les administrations, tu peux pas virer les gens, tu peux pas débarquer avec du personnel privé dans une administration pour te brancher sur les serveurs. C'est la méthode. C'est pas l'histoire des économies, hein. Ils font ce qu'ils veulent, hein. C'est juste pas légal, en fait. Je vous lis. C'est effrayant, mais c'était à prévoir, me dit Croctou. Ce qui me fait le plus peur, c'est que la France suit les États-Unis avec 10-15 ans de retard, ce qui nous donne une idée de ce qui nous attend dans quelques années. J'espère que les Français ne seront pas aussi stupides que les Américains. Croctou, c'est son premier message sur la chaîne. Il y a les premiers messages sur cette chaîne, parfois c'est caca ou pipi ou une dinguerie. Pour un premier message, je trouve que ça a de la gueule, quoi. GG à toi. Je vous lis, je remonte dans le chat. Merci Bertoschi pour l'abonnement offert à Chazora. Merci à toi. Nicole, personnellement, je vois pas le problème. Les Américains ont voté Trump en connaissance de cause. Ça n'a rien à voir. En fait, dans un pays, dans une démocratie, il y a des lois. Des lois, il faut les respecter. Il y a des contre-pouvoirs. Les contre-pouvoirs, il faut les respecter. Et en fait, t'as beau être élu par des gens, tu ne peux pas passer outre les lois. Voilà. Et là, tout le monde est en train de bien se rendre compte que tout ça est complètement illégal. Les syndicats ont porté plainte. Ça va sans doute se régler sur le terrain judiciaire, mais la justice est sur un rythme qui est lent. Et en fait, le temps que tout ça se passe devant les tribunaux, tout ça aura été démantelé, si vous voulez. Et ils le savent. Ils le savent. Voilà, exactement. Comme le dit Edgar, c'est ce qu'on appelle l'état de droit. Merci, Baba Yop. C'est gentil. Est-ce qu'on peut trouver nos premiers messages? Bien sûr, Elfocus. Toi, tu peux pas, moi, je peux. Tu veux que je te dise ton premier message? Oh, la pression. Je suis sûr que ton premier message, il est top. Tu veux que je te dise ton premier message? 19 février 2022. Crunchyroll. Ça va, en vrai. Point d'exclamation. Merci, Julo. Blacky Nounours, bonjour Samuel, c'est mon premier message aujourd'hui, donc pipi prout. Oui, ton premier message aujourd'hui, j'ai dit premier message tout court. Graf, salut Sam, as-tu parlé de la franchise de TVA? Abaissé à 25 000 euros pour les auto-entrepreneurs. Je suis auto-entrepreneur, je suis super préoccupé par ça. Écoute, non, mais j'ai vu sur les réseaux que ça inquiétait un petit peu et je n'ai rien vu dans la presse ce matin, peut-être demain. Et tu sais quoi ? Eh ben, je vais tout de suite te trouver ça, mon ami. Parce que moi aussi, j'ai vu ça passer sur les RS ce matin et je me suis posé la question. Voilà. Je crois que tu as raison. Je te cherche une source un peu carrée là-dessus. Ouais, Chazora, c'est... C'est Bertoche qui t'a offert l'abonnement. Claire me dit je confirme, c'est très problématique, ça va toucher les streamers aussi, me dit Pierre Bourdieu. Bah oui, parce que chaque streamer en fait a une petite entreprise. Hein. Les subs, c'est pas dans la poche, hein, ça va dans la société. Après, tu payes des charges, tu payes l'IS, tu payes tout ça. Et donc, effectivement, bah, les streamers, ils ont tous des entreprises ou des micro-entreprises, bien sûr. Je vous trouve l'info. Alors, une bonne source. Ok, le Figaro, propre. Let's go. L'ISF. J'ai dit ISF ? Non, c'est l'IS, je voulais dire l'IS, l'impôt sur les sociétés. J'ai dit l'ISF, qui n'existe plus ? J'ai dit ça ? Le budget 2025 va forcer davantage de petites entreprises à s'acquitter de la TVA.
Ouais.
Une modification. J'ai dit yes. J'ai dit ah, vous trollez. Ah, j'ai eu peur. Ça n'existe plus l'ISF. Comment ça s'appelle maintenant? C'est le. Ah! Avant, c'était l'impôt de solidarité sur la fortune. Maintenant, c'est le truc immobilier, là. IFI. Alors, les gars, putain, vous datez, là. Bande de croulants. Une modification permettrait au gouvernement d'abaisser le seuil d'exemption de TVA pour les petites entreprises ou grandes dames des professionnels. C'est vrai. Le budget du projet de l'État prévoit d'abaisser. Donc, après, il va passer par un 49.3. Il n'y a pas de motion de censure, donc on peut dire que ça va passer. Prévoit d'abaisser le seuil d'exemption de TVA, donc ne pas payer de TVA, pour les petites entreprises à 25 000 euros de chiffre d'affaires annuel. C'était combien avant? Avant, c'était à 37 500. Ah bah ouais, ça fait une sacrée différence. Donc tous les gens qui déclaraient en dessous de 37 500 euros de chiffre d'affaires, ils ne payaient pas de TVA. Bah maintenant, c'est à partir de 25 000. 25 000, c'est bon, 99,99% des streamers sont larges. Oui. Oui, parce que, bah pardon, mais pour faire 25 000 euros de revenus sur une chaîne Twitch à l'année, faut avoir une sacrée chaîne Twitch déjà. C'est une toute petite partie des streamers et des streameuses. Ça fait combien par mois? 25 000. Alors, il faut 2000 euros de revenus par mois de rentrée venant de Twitch pour les gens qui font que Twitch. On me dit 37K pour les prestations de services et 80K pour les commerces. On va voir ça. Voilà. De chiffre d'affaires, Atlas, bien sûr. De chiffre d'affaires. De revenus pour la société, si vous voulez. Alors, lisons ça. Donc, avant, c'était 37 500. Voilà, maintenant, c'est 25 000. Pourquoi ils ne précisent pas pour tout... Vous m'avez dit que c'est pas pour tout le monde. Ok... Ah, il manque des infos, là, on va regarder. La tribune, ok, c'est pas mal, ça. 25 000 euros. Bon, là, il faut être abonné. Quelqu'un... Bah, c'est, a priori, c'est ça, hein. C'est pour toutes les entreprises. Hein. Ça dépend de l'activité, moi. Je l'ai pas. Il y avait un papier qui avait l'air complet dans l'Union, journal régional. Mais je suis pas abonné non plus. Ça va, la pub? 200 000 micro-entreprises françaises menacées de payer donc de la TVA. Ah, voilà. Donc, actuellement, c'est ça. 37 500 pour les prestations de services, actuellement avant la loi. 85 000 pour les activités d'achat-revente. 50 000 euros pour les avocats, artistes, interprètes et auteurs. Actuellement, avant la loi. Voilà. Et maintenant, un seul plafond nettement plus bas. Voilà. Donc il n'y a pas de moi, je te le dis à toi. D'après l'article, c'est un seul plafond pour everybody, on va lire. Un seul plafond nettement plus bas. C'était avant qu'il y avait des différences. Débattu par sénateurs et députés en commission mixte paritaire, blablabla. Voilà. La loi de finances prévoit de fixer un seul, ça écrit là, un seul, I-N, plus loin, S-E-U-L, plafond, désolé pour ceux qui pensaient que, bah, je suis confus, hein. Je pense que je dois donner des sueurs froides à une partie du chat là. Un seul plafond d'exonération de TVA à 25 000 euros. Désolé, désolé. Ben oui, il faut y aller les petites lignes, c'est comme sur les, c'est comme sur les quand t'achètes des trucs. TVA sur du stream, bah oui, parce que le sub il rentre dans le chiffre d'affaires et après bah, la TVA est calculée là-dessus quoi. Et oui, désolé. Birzenfire. Je suis costumier, comme beaucoup d'artisans d'art, nos situations sont très précaires, retraite de misère, pas d'arrêt maladie, aucune garantie d'activité, très difficile d'avoir un prêt pour acheter sa maison, tout ce que tu dis est vrai. Je suis complètement désemparé par cette mesure. Une sénatrice a répondu que nos revenus ne baisseraient pas. Ah bon ? Car nous facturerons une hausse de 20% à nos clients. les sénateurs et rois de l'économie. Nous ne serons pas du tout compétitifs avec cette hausse, bien sûr. Elle est dingue. Ouais. Ah non, mais vous n'allez pas du tout perdre d'argent parce que vous allez augmenter vos tarifs de 20%. Et bien oui ! Oh, les fous, quoi. Chapeau de paille me dit elle ne paye pas, elle collecte. Bah, ça dépend si t'as des dépenses. Je prends le cas d'un petit streamer, un bon streamer déjà, qui fait effectivement 25 000 euros de chiffre d'affaires par an. Okay ? Donc effectivement, il va collecter la TVA, 20%, hein, sur toutes les factures qu'il a encaissées. Et il va pouvoir enlever de ça la TVA de ce qu'il achète, de ce qu'il dépense. Mais en fait, un streamer, une fois qu'il a acheté en gros son setup, tout ça, Twitch n'égale pas de TVA ? Ah bah si, Electron. Tu veux que je te montre la TVA que je paye ? Bah si, mon chouchou. Écoute bien. Une fois qu'il a enlevé tout ce qu'il dépense, c'est-à-dire l'achat de son setup, il le fait une fois en général, quoi. Et puis ses petites dépenses, on va dire l'abonnement Internet, peut-être éventuellement les jeux qu'il va acheter. C'est pas des dépenses qui vont se renouveler tous les mois, quoi. À moins d'être un très très gros streamer qui va faire des grosses prods, et tout, il va dépenser de l'argent avec des prestataires, etc. Et tout. Mais dans ce cas-là, de toute façon, il est très au-delà des 25 000. Donc de toute façon, la TVA, il la paye déjà. Et ben en fait, il ne peut pas enlever beaucoup de TVA à la TVA qu'il va payer. Vous voyez ? Et Evie. Tu n'enlèves pas tes charges en micro-entreprise ? C'est pire alors. Mais avec Twitch qui est aux USA ou en Irlande du Nord, il n'y a pas d'auto-liquidation de la TVA. Electron, il part sur cette idée. Il pense que parce que Twitch, c'est américain. Tu penses que le gouvernement français, il va laisser le streamer français, parce que l'entreprise est américaine, il va laisser les revenus échapper au fisc ? Eh oui ! Dans nos rêves ? Non ! Ton revenu, c'est marrant parce que quand Twitch te fait le virement à la fin du mois, si seulement, ben oui, quand Twitch te fait le virement à la fin du mois, donc de tes subs, tout ça, enfin de ce qu'il va te laisser sur les subs, parce qu'il prend sa petite marge, le Twitch, c'est normal, donc c'est marqué en dollars. C'est américain, et évidemment le virement il va être fait en euros, quoi. C'est fait en euros, donc ça tombe sur pas ton compte en banque, ça tombe sur le compte en banque de ton entreprise, bien sûr. Ce serait trop beau, voilà. Et à partir de là, en fait, le fisc n'a rien à foutre de savoir que ça vient des États-Unis ou peu importe. C'est ton chiffre d'affaires en France et let's go, et puis là c'est parti. Donc la TVA, l'impôt sur les sociétés, les charges sociales si tu veux te verser un salaire, le truc sur les dividendes si tu préfères les dividendes, etc. quoi. Hey Fergy, il n'a pas forcément tout dépensé. Thor, tu voulais ajouter ? Tout dépense si à Twitch c'est une filiale française ou non ? Non, mais je vous explique pas. Je vous explique pas ce que ça pourrait être. Il n'y a pas de filiale française de Twitch. Hein. Il y a un bureau de Twitch en France. Où il y a 2-3 personnes qui travaillent, mais qui n'ont aucun pouvoir sur la politique de Twitch. Et je peux vous dire que 100% des streamers, 100% des streamers français ont dû créer une entreprise. Il y a un chiffre d'affaires dedans et le fisc s'intéresse à ça, quoi. Donc, ne pensez, il n'y a pas un seul, sauf les streamers français qui sont partis à l'étranger. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Bah oui. Donc c'est pas un débat, je vous dis juste que ce qu'il y a, quoi. Donc voilà, désolé pour l'annonce de la TVA, les petites entreprises sont un petit peu en PLS, mais oui, il y a un truc. Je vous lis. On va essayer d'avancer sur le truc. Et puis les streamers, c'est une toute petite partie du sujet, parce que du coup, c'est toutes les petites entreprises qui vont être concernées, quoi. En gros, moi, je suis pas spécialiste de tout ça, hein. Mais en gros, quand il y a un revenu qui tombe, je prends mon exemple par exemple, en gros, s'il y a un revenu qui tombe dans ma société, quelle que soit son origine, en gros, ce que tu peux toi te donner, c'est à peu près un tiers, je dirais, 30%, en gros, une fois que tu as tout enlevé, quoi. J'ai jamais trop fait le calcul, mais à la louche, c'est ça, quoi. Donc voilà pour cette info. Désolé pour la mauvaise nouvelle pour certains. Et vous êtes en train de me parler des augmentations de cotisations de l'URSSAF aussi. Oui, il y a ça aussi. À peu près, Spiro, ouais. Merci Wolf pour le raid, j'avais pas vu. Merci Sternasi pour le prime. Merci Julo. Mais pour être tout à fait précis, parce que je pense que j'ai pas été précis sur. Il n'y a pas de TVA sur le revenu. Je reviens au streamer, parce que Electron, tu as raison. Hein. Parce que là, j'ai été imprécis. Sur le revenu que te verse Twitch sur les subs, tu ne payes pas de TVA là-dessus. D'accord? Ça, c'est un revenu. Il y a pas, tu ne verses pas 20% de ça à l'État, quoi. Hein? D'accord? La TVA, c'est après. Tout à fait, Alextron. La TVA, ça va être par exemple sur tout ce qu'on appelle les OP, d'accord? Toutes les OP, les opérations commerciales, là tu vas émettre une facture à la personne qui te propose l'opération, et donc tu vas augmenter le truc de 20%, donc tu vas mettre la TVA en plus sur le HT, sur le hors-taxe, voilà. Et après, à la fin du mois. Quand ta chaîne en société. Mais toutes les chaînes sont en société, Boomzer, c'est une obligation. Tu peux pas mettre tes sommes dans ta poche, c'est interdit, c'est illégal. Et là, ben, les 20%, on te le demande à la fin du mois ou à la fin de je sais pas quand. Voilà. Twitch verse 20% de TVA sur ce qu'elle facture en sub. Je ne sais pas du tout ça. Il faut leur demander à Twitch États-Unis, quoi. C'est pas interdit, c'est interdit de se faire prendre. Ah, peut-être l'ONISC, mais alors moi je joue pas à ça, quoi. J'ai envie de dormir tranquille, quoi. C'est la déclaration de TVA que tu fais tous les mois, quoi. Donc, en gros, chaque facture que tu vas encaisser de trucs que tu as fait, tu rajoutes 20%. Et à la fin du mois, tu peux défalquer cette TVA, les choses que tu as achetées, les investissements que tu as faits, ou les prestataires de services auxquels tu as fait appel, les monteurs, réalisateurs. Les gens qui travaillent pour toi, quand ils émettent une facture, quoi. Es obligé d'avoir une société pour encaisser les subs? Oui, c'est une obligation. Tu peux pas mettre ça dans ta poche, c'est interdit, c'est illégal. Mais ça change rien à notre histoire, puisque nous, ce qui nous intéresse dans cette histoire que certains m'ont demandé. Regardez, c'est que, en gros, parce qu'en fait, Electron, ça change rien. C'est-à-dire que une entreprise plutôt qu'une société. Ben, en fait, une entreprise, c'est une société. Après, les statuts juridiques, ça peut être une SA, une SARL, une URL. En termes de droit, c'est une société, quoi. Auto-entreprise, voilà, la forme juridique change, mais c'est toujours une société. La nouveauté, c'est que jusque-là, jusqu'à 37 500 euros de chiffre d'affaires, tu ne payais pas de TVA sur rien. Et désormais, c'est 25 000 euros. À partir de 25 000 euros, eh bien, sur tous les trucs où normalement tu devrais facturer la TVA et la reverser aux impôts, ce que j'appelle payer la TVA, alors qu'en fait c'est inexact, c'est facturer la TVA et la reverser aux impôts, eh bien, tu vas devoir le faire. Alors avant, t'en étais exempté. Tu ne la déclarais pas exactement, Florian. Donc ça change tout. Ça change tout. Déjà, c'est la paperasse en plus. Et puis, c'est les sous qu'on va t'enlever, bah, forcément. Parce qu'en gros, pour avoir une TVA 100% annulée, bah, il faudrait autant de dépenses que de recettes, quoi. Il faudrait un bilan à zéro. Alors, tu vois, DocSense dit que ça ne change rien pour nous dans le cas de YouTube ou de Twitch à cause du fait que ça vient de l'étranger. Oui, c'est ce que je viens d'expliquer. Le revenu, il n'est pas à 20%. Mais c'est sur tout le reste de la vie de ton entreprise, quoi. D'ailleurs, peut-être que pour une micro-entreprise. Alors, est-ce que les micro-entreprises, quelqu'un me dit qu'il n'y a pas de charge en micro-entreprise. Oui, mais micro-entreprise, justement, il y a une limite de chiffre d'affaires. C'est combien d'ailleurs? Ah, bah ouais, désolé. Désolé. Micro-entreprise, le seuil de TVA baissé à 25 000 euros à partir du 1er mars. Manifestement, touché. Aïe, aïe. Attendez, on va vérifier cet article. Ouais, bah, la loi change. Non, ça ne dépend plus du type d'activité. Ticlem, c'est pour tout le monde. Cette modification a pour conséquence de réduire considérablement le seuil de TVA à 25 000 euros pour les micro-entreprises. Désolé. Ça a mis en place le 1er mars prochain. Mauvaise nouvelle pour les auto-entrepreneurs. Je suis confus, hein. Je suis désolé pour les mauvaises nouvelles. L'adoption du budget 2025, blablabla. Le nouveau seuil d'exemption de la TVA pour les petites entreprises se situera désormais à 25 000 euros de chiffre d'affaires. Je suis confus. Hein. Bah, vous vérifierez, mais il faut toujours vérifier une info de toute façon. Bah, vous vérifierez avec votre comptable. Désolé. Flexus, je fais 30K par an actuellement. C'est un peu bouleversant, j'avoue. On sait à partir de quand ça prend effet. 1er mars, a priori. Voilà. Je surveille l'heure, 11h31, mais on a bien fait de faire cette petite pause. C'est pas inintéressant, en vrai. Votre comptable, vous n'êtes peut-être pas comptable, oui, c'est vrai. En micro-entreprise, ouais. Bah, il va falloir... Putain, c'est encore pire, ça. Vous tout vérifiez par vous-même, quel enfer, quoi. A priori, Twisted Art, j'ai pas l'info sur un ou deux ans. Ouais. Ouais. Désolé pour les mauvaises nouvelles. Yanovitch m'a dit, je suis auto-entrepreneur, j'ai un food truck, ça devient vraiment de pire en pire. On a déjà pris une hausse de 4% de taxes sur SAF l'été dernier. Et là, avec l'exception de TVA, je vais tout arrêter. Qui a voté cette loi? Bah, personne, puisque ça passe par 49.3. S'il est censuré, sera retiré. Bah, s'il est censuré, le projet de loi n'est pas adopté, donc la loi ne passe pas. Mais a priori, comme les socialistes et le RN ne vont pas voter la motion de censure, ça va passer, quoi. Ils font ça pour enflouer les caisses de l'État? Oui, tiers, c'est ce qui est mis en avant, exactement. Xolo 2, pour répondre à ta question, c'est comme ça que c'est justifié, ouais. Ouais. C'est vrai que c'est un peu ouf. Je peux pas vous donner tort. Ouais. Et au-delà même de la commande, du surcoût à payer, donc, hein, c'est tout le travail de paperasse. Parce que franchement, c'est pas très très drôle, quoi. Il faut collecter toutes tes dépenses, toutes tes recettes. Déterminer quand vous n'avez pas de comptable, déterminer la TVA à chaque fois avec des taux de TVA différents, avec des exceptions. Il y a des trucs tu peux pas. Je crois par exemple que le transport, par exemple, faut à vérifier, mais le transport tu peux pas sortir la TVA, tu peux pas exempter la TVA. Enfin, il y a plein de trucs. Enfin, ouais. Désolé. Ouais. Bah, moi je suis pas un grand passionné de tout ça, moi. Ah ouais, c'est ça, pas de TVA sur les transports, train, avion, bus, ouais, Renji. Donc il faut connaître les exceptions et tout ça, quoi. Désolé. Ouais. J'ai l'impression que j'ai annoncé une mauvaise nouvelle à plein de gens. Bon, encore une fois, moi je ne suis pas économiste, je ne suis pas comptable. Hein. Donc vous irez bien, tous les gens qui sont concernés, là, vérifier. Les informations que je vous ai données. Mais je crois qu'a priori, globalement, vous avez le cadre, quoi. Allez. T'excuses pas, c'est pas toi qui as voté la loi, enfin, je crois. Non, effectivement. Mais la loi n'est pas votée puisqu'elle passe pas 49-3 de toute façon. Amélie de Montchalin, confirmée ce matin sur France Inter. Ok, let's go, on y va. Désolé, hein, j'enfonce le clou. Hein. Amélie de Montchalin, France Inter. C'est la ministre déléguée au compte public, donc c'est oui. Donc TVA. Alors, j'ai pas d'article sur la TVA. Que je trouve sur le site de France Inter. Malandrin, deux points, ouvrez les guillemets. La loi finance a finalement été adoptée par 49.3 ce lundi. Hein, ce lundi? Ah oui, parce que ça a été. Oui, t'as raison. Ça a été adopté ce lundi. Ça ne saute que s'il y a une motion de censure aujourd'hui. Tu as raison. L'amendement au sein du PLF, projet de loi finance 2025, aura pour conséquence la création d'un seuil unique de franchise, unique pour tout le monde, de franchise de TVA. Donc en dessous, tu n'en payes pas, à 25 000 euros pour toutes les activités, il n'y a pas d'exception. Le seuil majoré sera quant à lui revalorisé à 27 500 euros. Okay. Bon, ben voilà. Désolé pour la mauvaise nouvelle. Trente-sept mille sept cents avant. Ouais. Salut, Genales. Bah, j'avais pas vu tous tes messages avant. Bah, je vais essayer, ouais. Voilà, Defecator me dit 2,7 millions de personnes concernées en auto-entrepreneur d'après l'URSSAF, c'est énorme. Eh oui. Ouais. On ne paie la TVA que sur le chiffre d'affaires au-dessus du seuil de franchise, je pense pas, Picsoup. Je pense que jusqu'à 25 000 euros exemption, et à partir de 25 000 euros, tu payes la TVA, mais sur l'intégralité de. Ouais. Ce n'est pas comme l'impôt avec les tranches, tu sais. Non, je ne crois pas. Non, je crois pas. Non, c'est avant 25 000 exemption. Voilà. Rum, je suis d'accord. Et après 25 000 euros, TVA. Après, c'est pas 20% de 25 000. On est d'accord, parce que c'est pas forcément, tu ne vas pas forcément payer de la TVA sur tout ce qui rentre, quoi, parce qu'il n'y a pas forcément que des factures, quoi. Ça dépend un petit peu de comment vous travaillez, ce que vous faites, quoi. Florian, si, a priori, si, Tu ne payes pas la TVA en tant qu'auto-entrepreneur, tu la collectes et tu la déduis à partir de 25 000 maintenant, oui. Même si tu es auto-entrepreneur. Je vérifie pour être sûr, hein, parce que pour le coup, c'est chaud ça, mais si, si. Auto-entrepreneur, TVA. Si, si, si. Désolé. Désolé. Je suis confus. Hein. Pourquoi le budget 2025 de l'État inquiète les auto-entrepreneurs, article dans Capital. Voilà. Actuellement, le seuil d'exemption de TVA pour les petites entreprises est établi à 37 500 euros. On passe à 25 000. C'est quoi ça? Oh là là, la sale pub. Oh là là. Désolé. Bon après, là, hey, encore une fois, je ne suis pas comptable, pas économiste, même si je vous montre mes subs là, 3114 subs, merci à vous. Donc vous, tout ça, vous le vérifiez bien sûr. Voilà. Alors, on enchaîne. Il nous reste 20 minutes avant que je aille à mon rendez-vous pour parler de Valorant. Ouais. C'est une pub pour les trucs de chat là. D'accord. Et maintenant, je vais vous parler de. On va se détendre un petit peu. Avec, on va parler de la K-Corp et on va parler d'un nouveau sport qui s'appelle lacrosse. Voilà. Et qui a de plus en plus de succès en France. Ouais, on se détend un petit peu là. Désolé. On est sur la page quoi. On va parler de la K-Corp. Ouais. Marche bien la K-Corp. Eux, ils sont. L'info, c'est que la K-Corp a dépassé depuis un petit moment le seuil de déclaration de TVA, hein, je peux vous le dire. C'est en millions, on va voir ça dans un instant. Et tant mieux pour eux d'ailleurs. Page 18. Vous connaissez lacrosse ? C'est le lacrosse. Le jeu, c'est lacrosse. C'est le lacrosse. C'est pas lacrosse. C'est rugby. Lacrosse. Donc, c'est le lacrosse. Affreux d'ailleurs, imprononçable. C'est le lacrosse. Pourquoi pas la lacrosse ? Pourquoi pas la land ? Pourquoi la. Vous, hein ? Pourquoi ? Très, très bizarre. C'est vraiment pas joli. Le lacrosse. Peu importe. Bon filet pour les JO 2028. Il y a un filet. Bon filet. La petite blague. Le sport d'origine amérindienne fait de nombreux adeptes dans l'Hexagone. L'Hexagone, c'est chez nous. Lara Cross, j'ai la ref, jolie, depuis son inscription au programme des Jeux de Los Angeles, c'est pour ça. Voilà. Il y a Fury Boulet qui jouait au primaire, trop mignon. Merci Sifi pour le soutien, pour le prime. Merci The Voyageur pour l'abonnement offert à Impôt, joli. Immersion à Toulouse. Entre crampons, plastron et piège à papillon. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que ça raconte ? Donc, ils sont à Toulouse. Mathilde Roche, envoyée spéciale à Toulouse. Voilà. Comme une impression d'avoir atterri sur une pelouse universitaire boueuse du Massachusetts. Merci Maxime pour le prime. Certains ont vu le sport dans Teen Wolf. Des joueurs en casque intégral et plastron courent partout sous la pluie. Des arbitres en jersey à rayures verticales noires et blanches s'époumonent en anglais. Let's go ! C'est marrant, c'est en anglais. Ce n'est pas du baseball, ce n'est pas du football américain. C'est les championnats de France de lacrosse. Le lacrosse. American Pie aussi ? American Pie ? Ah oui, le gâteau là aux pommes ? Très bien. Les championnats de France de lacrosse qui battent leur plein. Les passionnés de ce sport de contact venus de l'autre côté de l'Atlantique se font un plaisir de raconter qu'il s'agit du plus ancien sport du continent américain, inventé par les tribus autochtones, les Amérindiens. La tarte, oui, la tarte. Comme une discipline à la fois spirituelle et physique au point de le surnommer The Medicine Game. Hein le jeu médicament, tiens donc. Plus tactique, plus technique, plus cardio que les autres pratiques populaires aux États-Unis ou au Canada. Il se joue en équipe dans l'objectif de marquer des buts dans la cage adverse, mais muni comme son nom l'indique d'une crosse. La crosse. Surmontée d'un petit panier. Et ça, c'est original. Très bien. Salut Samuel, mais qu'est-ce que tu fais alors que Civilization 7 arrive ? Mais attendez, Civilization 7, j'ai quelques jours, non ? Ça sort quand ? Sorti ? C'est quelques jours, là. Attendez, c'est la semaine prochaine, non ? Attendez, 11 février. Oh ! T'es fou ou quoi ? Agenda. Tu m'as fait peur ! Malade. Il m'a fait peur, lui. J'ai cru que j'étais à côté de la plaque. Il est fada, lui. arrêt cardiaque. 11 février, je prends mon agenda numérique en papier. 11 février. Le 6 en early access. C'est quoi le early access? J'ai le droit, moi, ça? Ah, c'est l'OP de Zera. Ah oui, mais je ne m'appelle pas Zerator. Désolé. C'est une OP. Ah ouais, ben j'ai pas, non, j'ai pas d'OP sur le jeu là. Désolé. Si tu achètes l'édition de luxe, oui. Attends. Si j'achète l'édition de luxe, Sugar Frog, je l'ai dès le 6. Quoi? Avec l'édition de luxe, tu as le jeu demain? Quoi? Ok, alors, comment ça s'appelle? Civ 7 Deluxe Edition? Ça coûte combien ça? Combien ça coûte? Ça coûte cher ça, non? 100 balles! 100 balles! Comment ça, j'aurais pas le droit de le stream? Bah, pourquoi j'aurais pas le droit de le stream? C'est-à-dire? Pourquoi j'aurais pas le droit de le stream? 100 euros, je le note. Pourquoi j'aurais pas le droit? Je vais prendre la CB de mon épouse, comme d'habitude. Pourquoi j'aurais pas le droit de streamer? J'ai le droit? Tu passes en frais de société? Bah, les jeux, ils passent en frais de société, les gars. Évidemment, hein, c'est autorisé. Hein. C'est mon taf. Hein. C'est, moi, mon taf, c'est de jouer aux jeux vidéo. Je sais pas, je demande. Ah bah, si tu sais pas, pourquoi tu dis alors? Si, tu auras le droit de le stream. Ok. J'aurai la TVA payée dessus, bien sûr, bah sur les jeux TVA. Hein. Oh, puis les enfants ont un petit peu des économies, je vais leur piquer leur... C'est un travail de jouer? Moi, oui. Ouais. D'accord, ok. Donc, Civ 6 demain. Ok, d'accord. Rapou me dit, vérifie si tu as le droit de stream. En effet, il y a souvent l'interdiction tant que le jeu n'est pas sorti. Le taf de rêve. Je confirme. Ouais. L'embargo tombe demain. Il n'y a pas de NDA. Donc je peux. Ok. Ok. Il y a 5 ans, tu ne connaissais même pas Twitch, ça me l'étienne. Il y a 5 ans, je ne connaissais même pas les ordinateurs, moi. Moi j'envoyais des fax aux gens. Ouais. C'est quoi le rendez-vous pour Valorant? C'est un secret. Des pigeons voyageurs aussi. 130 euros la Founder Edition en promo à moins de 100 euros. Ok. 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 On revient à la crosse là? Let's go. Ah oui, il y a Mel aussi que je dois caler. Quel jour on est? Attends, ça va être coincé. Ah, c'est vrai. Bon. Donc, la crosse, le petit panier. D'un œil très extérieur, donc la crosse, c'est du hockey sur gazon qui se joue dans les airs avec une balle à la place du palais et des filets papillons un peu costauds. C'est super clair. Blablabla. Bla, bla. Donc, ce sera au JO 2028. Retour inattendu parce que ça a déjà été au JO, la crosse. Eh oui! Et moi, je m'en souviens, mais vous, non. Pourquoi? Parce que la dernière fois, c'était en 1908. Et moi, en 1908, j'étais là. En 1908. Et j'étais un fou de la crosse. Et vous ne connaissez pas. Voilà. Malin, le comité des États-Unis a choisi 5 sports locaux dans lesquels les Américains excellent. Ils sont malins, ils ont choisi des jeux où ils sont super forts. Hein. Donc, il y a notamment la crosse où il y a quasiment que les Américains qui jouent. Quoi. Donc, du coup, la France, ils commencent à s'y mettre. 1908. Mytho, pas du tout, j'étais là. J'étais là. J'étais déjà un influenceur à l'époque. Le constat est le même partout en France. Une grande majorité de gens arrivent pour les JO en disant « je veux bien tenter ma chance ». Ouais, mais bon. Le nombre de licenciés a triplé. Le nombre de joueurs de lacrosse en France a explosé. On est passé de 93 à 274. Tremblez, Américains. Nous sommes 274 à jouer actuellement. On va vous rouler dessus. Il n'y a personne en vrai. J'adore cet article. Waouh ! On est passé de 7 équipes à 12. Poi, 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 poi ! C'est dingue, c'est incroyable. C'est une déferlante. Hein. C'est drôle. J'adore. Et donc, il y a déjà les championnats de France. Bon, en gros, tu as commencé avec 15 jours, tu peux être littéralement champion de France de ce truc. Quoi. C'est top. C'est génial. Tu veux faire les jeux ? Ben, en vrai, c'est le moment de te mettre à la crosse. Hein. J'ai l'impression. C'est génial. Quoi, quoi ? Ah, c'est dans 5 minutes, mon truc, là, mon rendez-vous, là ? Non, c'est dans 10 minutes, ça va. C'est chez moi, la notif, hein, vous inquiétez pas. C'est pas mixte, il y a femme et homme. C'est séparé. D'accord. C'est pas tout à fait les mêmes règles. Ok, on va aller voir du lacrosse un petit peu. Voilà. Les gars, si vous voulez faire les JO, il faut faire lacrosse. Hein. Lacrosse. Lacrosse. De la vidéo. J'ai un reportage sur France 3 Val-de-Loire. C'est bien ça? Oh là là, la pub. Découverte du lacrosse. Bon, bah c'est pour nous. Hein. Let's go. C'est au JO, bien sûr que c'est au JO. C'est pour ça qu'on en parle. YouTube, lacrosse, reportage de France 3.
Plastron, coudière, casque. On se croirait dans un match de foot américain. À un détail près.
Bon, les gars, on s'échauffe un peu là.
Lacrosse. C'est elle qui donne son nom à cette discipline, tout en contact.
Ouais, bien. Faut plonger. Ah, bien joué.
Ce club orléans...
Donc, vous voyez, là, actuellement, vous voyez des images assez importantes. Vous voyez deux des 274 pratiquants en France actuellement. C'est une espèce rare, qui n'est pas menacée. Mais, du coup, j'espère que vous mesurez votre chance.
L'année a vu le jour il y a 8 ans. Certains, comme Samuel, y sont depuis le début et pour cause. C'est son père qui l'a créé.
Qu'est-ce que ça dit, là ?
A vu le jour il y a 8 ans. Certains, comme Samuel, y sont...
Pardon ?
Il y a 8 ans. Certains, comme Samuel, y sont...
Putain, je vais faire les Jeux Olympiques ?
Sont depuis le début et pour cause. C'est son père qui l'a créé.
Je trouvais cette pratique assez particulière, donc j'ai voulu essayer et j'ai tout de suite adhéré.
C'est pas moi ? Et il a aussi un nom de famille qui a un prénom. Ce n'est pas Samuel Etienne, c'est Samuel Grégoire. C'est très étrange.
Et pratiquer ce sport aux côtés de mon père, c'était quelque chose qui était plutôt sympa à faire.
Il a l'air sympa.
Dans le sport, c'est le contact, le sport qui est quand même assez physique et quand même
il a l'air sympa.
Qui est assez ludique.
Le lacrosse, c'est le sport national officiel au Canada où la discipline a vu le jour. Depuis, elle s'est développée aux États-Unis et c'est là.
Faux, c'est pas les Canadiens, c'est les Amérindiens.
Largement répandue dans les lycées. Elle a ses variantes, ses ligues, ses championnats, mais son histoire est encore bien plus ancienne que ça.
Un petit peu, ouais.
C'était les peuples locaux qui
voilà.
Jouaient à ce sport, souvent pour prendre des décisions. C'est-à-dire que quand il y avait des conflits, on réglait ça avec un match de lacrosse et celui qui gagnait prenait la décision.
Voilà.
Les règles, deux équipes s'affrontent et doivent marquer le plus de buts en 80 minutes sur un terrain divisé en deux zones, une d'attaque, l'autre de défense. Et presque tous les coups sont permis.
On peut se permettre de venir
ça a l'air cardio, hein.
Cross sur la crosse de l'adversaire.
Ah bon ?
On peut venir se permettre de pousser avec les épaules. Pousser aussi un peu avec la crosse. Et quand la balle est au sol, quasiment tous les coups sont permis.
Une discipline qui peine à trouver son public en France. Ça... Manque de notoriété.
Attends.
Au sol, quasiment. Et quand la balle est au sol, quasiment tous les coups sont permis.
Ça, c'est un sport comme on les aime, ça. Et quand on est balé au sol, quasiment tous les coups sont permis. Ouais, on peut même se tirer dessus avec un gun.
Une discipline qui peine à trouver son public en France. Manque de notoriété, peu de clubs, pas de championnat. Et avec la crise sanitaire, du mal à mobiliser des joueurs.
Ouais, mais ça, c'est avant de savoir qu'on pouvait faire les Jeux Olympiques.
Ça serait bien qu'il y ait un peu plus de monde, surtout que les beaux jours arrivent. Donc c'est vraiment sympa de jouer dehors après le travail, après l'école. On ne cherche pas à faire de la performance, de la compétition, donc en fait on vient surtout pour s'amuser, pour passer du bon temps ensemble.
Pour pallier les absences, le club orléanais est mixte, alors hommes, femmes, filles, garçons, étudiants ou travailleurs. À Vaucrosse, les entraînements c'est chaque lundi et jeudi soir à Saint-Cyr-en-Val.
Les gars, si vous voulez faire les jeux, vous savez où aller. Let's go. Ok, c'est marrant, c'est sympa le reportage. Bravo les confrères de France 3, ça régale. Service public, force. Ah, si ton adversaire meurt, tu gagnes automatiquement. Je sais pas, j'ai pas eu les règles. On finit avec des bonnes nouvelles pour la CACORP, les amis. Eh ouais, parce que vous avez un journal qui s'appelle Les Échos, qui suit l'actualité de l'e-sport au niveau économique avec beaucoup d'intérêt. Boum, Les Échos, boum. Non, ça c'est L'Équipe, mon chouchou. Tu confonds. L'Équipe, Les Échos, page 15, il y a un petit papier là. CACORP, la très populaire CACORP poursuit son envol. Ce sera le dernier papier ce matin. La Carmine Corp, CACORP accélère encore. Sur les bruitages. Selon nos informations, le club d'e-sport cofondé par deux créateurs de contenu de renom, Kameto et Prime, drainant avec eux des millions de fans, est sur le point de boucler une levée de fonds entre 5 et 10 millions d'euros auprès d'investisseurs privés, dont Paris Entertainment Company, transaction qui valoriserait la CACORP à 45 millions d'euros. T'as déjà au début, tu l'as dit au début, ça, ouais, ça s'appelle un sommaire, Sacha. S-O-2-M-A-I-R-E, j'ai envie de te dire bravo. Félicitations, tu viens de découvrir le concept de sommaire. Cette opération pour laquelle la banque d'affaires Grandeur Compagnie d'Iris Alamedine a été mandatée, la troisième depuis la fin de l'année. Cette intensité s'explique par le changement de stature du club. Arrêtez de vous moquer. Arrête, Sacha, c'était pour déconner. Putain, vous rigolez comme des baleines, c'est dingue ça. Sacha, il était peut-être pas là au début, hein. Ah bah si, il vient de dire que j'avais déjà dit ça au début. Ouais. À l'époque, la CACORP s'est en effet offert une place dans le championnat européen de League of Legends. On dit LEC, c'est ça, ou LEC? LEC peut-être, non? On dit comment? LEC ou LEC? LEC. Quoi, Prime, il a été viré? LEC. Pourquoi vous me dites Prime, ils n'ont pas l'air au courant? Mais il est toujours là, Prime, non? Merci pour le LEC. Pourquoi vous dites Prime, c'est plus l'actualité? Il est plus là, Prime. Il a été viré? Quoi? Oh, ils sont pas au courant, merde. Bah non, il n'a pas été viré. Bah non, il est toujours là. Il est encore séparé. Vous racontez n'importe quoi, les gars. Bah non, c'est pas parce qu'il y a des petites tensions que... Donc, bah non. Ah, vous racontez des bêtises. Il y a des embrouilles en interne, mais pas viré. Ok. Heureusement qu'on vérifie l'info. Hein. Donc, de Lille, donc LEC, tout le monde dit qu'on dit LEC. Hein. De League of Legends, l'une des franchises d'e-sport les plus populaires au monde. À l'instar de la NBA dans le sport traditionnel, le LEC, tout le monde sait qu'on dit LEC, moi je le sais, fonctionne sur un système de franchise payante. Pour intégrer ce sein des seins, la CACORP a acquis 66,67% de la place revendue par le club Astralis, un rachat avec des paiements par tranche s'étalant de 2023 à 2025. J'espère qu'on peut sortir la TVA. Très populaire, le club est aussi rentable. L'an passé, la CACORP a généré un chiffre d'affaires de près de 12 millions d'euros. Le CA. Pas mal ça. Soit le double de 2023, présente sur League of Legends, Rocket League et Valorant, petit jeu indé, je ne connais pas. L'équipe a vocation à étendre son empreinte, intégrer des franchises comme Call of Duty, Rainbow Six Siege ou Counter-Strike, fait ainsi partie des projets à long terme du groupe. Voilà. Voilà. Leak ? Quel leak ? Non, c'est dans les. Je pense pas, c'est dans les échos. Bon, c'est bon, ça, la CACORP se porte bien, on peut dire ça comme ça, quoi. Moi aussi, je vais lancer. J'ai un projet pour lancer ma team e-sport, moi. Ouais. Sa vie, ouais. Moi aussi, je vais lancer ma chaîne e-sport. Mon équipe d'e-sport. L'EHPAD Étienne. Qu'avec des personnes âgées. Je vais lancer un championnat d'e-sport pour les personnes âgées. Ça va être une dinguerie. Tout rendez-vous. Ouais, je suis en retard. Ouais. Septuagénaire e-sport. T'as pas déjà une équipe à Domitys? Putain, Diesel. Diesel, t'as pas déjà une équipe à Domitys? Ouais, on est sponsorisé par les montes escaliers Stana. Diesel. Tu files un mauvais coton, mon Diesel. Hein? J'adore. Bon, ouais, je me suis régalé ce matin. Merci de la bonne humeur. Si, t'as raison. Pipou, t'as raison. Pipou. Bonjour Samuel, je ne sais pas si j'ai le droit de parler de ça ici, mais Henri Tran organise un live caritatif contre le cancer ce soir. Comme c'était l'un des sujets hier, que cette maladie touche beaucoup, et Henri, il a connu ça dans sa famille, je pense que lui donner un peu de force serait chouette. Tu as carrément raison, bien sûr. Il ne serait pas en live, le Henri ? Ouais, on avait parlé avec Henri de ça. Il ne serait pas en live, le Henri, là ? Ce serait incroyable. Ah putain, il n'est pas en live, là. Bon, ce soir, on raid Henri, ok ? L'excellent Henri Tran, qui était dans la dernière, dans le jeu qu'on a fait vendredi, là. Il était dans un jeu avec Disney+. Vous allez sur ma chaîne YouTube, vous avez le replay. Ouais. Tu stream quoi ce soir ? Je sais pas. J'aurais bien streamé le jeu dont on a parlé, là. Le Civ 7, mais je crois qu'il n'est pas dispo. Ouais. Qui est en live ? Je regarde. J'ai déjà une envie là. Non, j'ai une envie de faire pipi, mais ça c'est autre chose. J'y vais après. Je regarde. Hein. J'ai déjà une envie. Les amis, je vois que Tonton est en live. Oh, il y a du monde en plus. Sur Kingdom Come, dont je parlais tout à l'heure, un jeu que je trouve très intéressant, que j'ai peut-être envie de découvrir aussi. Il y a trop de jeux. Pff, voilà. Et il y a Gavé de Monde, et Tonton, c'est un gars sûr. Je le prends en photo, il est trop beau. Voilà. Il va arrêter bientôt ?
Ah oui, c'est loin quand même. Là, c'est la forge. Ok, d'accord. Donc je check mes quêtes vite fait.
Il a vachement l'air d'arrêter, hein. Il va arrêter. Alors, je suis en train de checker la carte. On va peut-être faire ça maintenant. Non, je pense qu'il est emporté par le jeu, là. Ouais. Petit raid, Tonton. Et puis, ça fera un plus gros raid après. Let's go. C'est parti. Merci. On se retrouve ce soir. Ouais, cet après-midi, j'ai trop de travail. Dommage, j'aurais bien voulu streamer cet après-midi. J'ai plein de rendez-vous. Il faut que je bosse sur des trucs et tout. On va voir Tonton. Je vous retrouve ce soir. Et merci pour ce matin. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez. À ce soir, bande de belles personnes. Merci pour tout. À toutes.
Agilité, je voulais garder mon point. J'ai pas d'autres stats à mettre. Je suis à combien d'éloquence ? 8. Ça commence à monter en vrai, éloquence. Not bad. Yo Sam, comment vas-tu ? Moi, le giga ultra host. J'espère que vous avez passé une bonne matinée. Merci d'avoir pensé à nous, Sam. Ça fait plaisir. J'espère que tu vas bien. Et bienvenue à tous. On est sur Kingdom Come, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est un RPG médiéval, plutôt réaliste et très beau. Bienvenue à vous. En tout cas, si vous voulez rester un peu avec nous, ça fait plaisir. Merci pour le soutien, Sam.